Bien, avec votre permission, on va débuter. Ça permettra aux retardataires de nous rejoindre. Donc, bienvenue à l'espace Mendès France pour cette journée d'études qui s'inscrit dans notre programmation citoyenne, grand public, de 4 jours autour de la question des médicaments. Donc, simplement pour vous contextualiser tout ça, juste une petite chose, nous sommes, en tant que centre de culture scientifique, amenés régulièrement à expliquer tout ce que la science, la recherche amène de manière générale à notre société. En même temps, depuis une quinzaine d'années, force est de constater que des avancées du progrès des sciences se font en parallèle avec un certain nombre d'effets qu'on appelle secondaire pour le médicament, collatéraux quand on parle d'environnement, etc. Donc il nous a semblé dans cette maison, déjà depuis plus de 10 ans, que défendre le progrès, c'était aussi être lucide par rapport à ses conséquences sur nos sociétés. Et le faire avec lucidité, sans complaisance, mais en gardant cette notion de progrès ancrée dans nos présentations, dans nos discours. Donc expliquer, nous le faisons, on appelait ça il y a quelque temps vulgariser. Ouvrir au plus large public possible, nous le faisons. Je vous rappelle que ce bâtiment aura accueilli fin 2013 un peu plus de 55 000 personnes et qu'en région, nous avons touché pas loin de 60 000 personnes en 2013 aussi, dans un peu plus de 120 communes. Donc pour vous expliquer qu'effectivement, ce déploiement, il se fait. Alors, la question du médicament, cette année 2013, vient après deux forums que nous avons mis en œuvre il y a 2 ans et l'an dernier, un sur l'énergie, un sur l'eau. Et le fil conducteur de tout ça, c'est de pouvoir assurer le triptyque explication, débat et également perspective, prospective. Donc concernant le médicament, comme vous certainement, moi je suis frappé depuis quelques mois sur le fait que les bienfaits d'un certain nombre d'avancées médicales sont rarement rappelés par rapport à des effets médiatiques qui malheureusement font oublier le reste. Donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on va essayer de conserver cette ligne directrice qui est d'expliquer, de comprendre, mais également de mettre en perspective tout ça. Donc je voulais remercier celles et ceux, les structures ou les personnalités qui nous ont aidés à monter ces contenus, à préparer des animations. Nous avons monté une petite exposition sur une boîte de médicaments, qu'est-ce que c'est, comment on la lit, etc. Parce que notre surprise a été grande quand on a cherché une petite expo sur les médicaments, une expo libre, autonome, sans contrainte d'aucune sorte industrielle ou autre, ça n'existe pas. Donc on a monté une exposition à partir de la boîte de médicaments, donc elle est à l'étage dans la cafétéria. C'est tout simple, elle sera disponible sur Internet pour toutes celles et tous ceux qui partout voudront faire une meilleure information sur le médicament. Donc remercier aussi celles et ceux qui, à travers leur structure, à titre personnel, ont accepté de donner à ces contenus justement cet esprit d'ouverture auquel on tient beaucoup. Donc Christian Berrier et nos amis de l'école de l'ADN, présents depuis longtemps dans cette maison, les rencontres du vivant, les ateliers, les avancées en termes d'information. Donc je voulais vous remercier encore une fois d'être présent avec nous. L'association ASPES, avec laquelle nous travaillons depuis longtemps ici, sous forme de conférences, de débats, sur les questions de perspective et d'enjeux de la santé. Donc on voit bien, il y a une vingtaine d'années, la question de la santé était présentée sous l'angle des thérapies et la question des usages, des rapports à la société était rarement traitée. Donc tout ça est en train de s'étoffer, je trouve ça tout à fait important. Remercier l'ARS d'avoir accepté de se plier au jeu de la discussion, donc merci Monsieur Chevalier. Remercier Mustapha Begzir qui est PDG de Biocidex, qui depuis longtemps arpente les champs de l'innovation en termes de médicaments. Donc Mustapha, qu'on connaît bien dans la maison, puisqu'il s'intéresse à la vulgarisation depuis très très longtemps, sera amené certainement à travers ses interventions à nous donner quelques éléments complémentaires. Et puis, last but not least, Jean-Claude Lecron, un habitué de la maison aussi maintenant, donc qui nous a beaucoup aidés à travers les contenus, la relecture, un travail de fond un peu souterrain. Donc Jean-Claude, merci à toi et à tous tes collègues d'avoir été à nos côtés. Puis je rappelle aussi que de manière générale, pour finir, l'Espace Mendès France, depuis 20 ans, est une des rares maisons en France qui, à travers le pôle Info Santé et le CHU, en appui avec l'INSERM, permet justement de mieux diffuser l'information auprès de nos concitoyens, parce que c'est essentiel, sur ces questions de santé, ces rapports à la société. Donc, vous voyez, c'est un collectif qui s'exprimera aujourd'hui, demain, vendredi, samedi et dimanche, à travers des films, etc., des animations. Donc, merci à toutes et à tous. Et je vais laisser la parole à Christian Berrier.
Christian. Oui, deux mots très rapidement pour vous dire que nous sommes évidemment très heureux de participer à cette journée, mais à plusieurs titres. D'abord parce que au sein de Mendès France, qui nous accueille effectivement depuis plus de 7 ans, et avec lequel nous travaillons en parfaite intelligence. Et puis aussi parce que l'école de l'ADN s'intéresse entre autres aux médicaments. Nous proposons en effet un stage aux lycéens de première sur les antibiotiques qui rencontre beaucoup de succès auprès de ses élèves. Et puis bon, il est vrai que pour certains médicaments, les interactions avec l'ADN ne sont plus à prouver. Et donc, il était tout à fait naturel que nous participions à ces journées. Voilà, alors, bienvenue à tous. Et je laisse la parole à Mustapha.
À la conférence. Donc, place à notre intervenant Antoine Dupuis. Vous mettez là. D'accord. Donc, bonne journée à toutes et à tous. Et puis, au travail.
Bonjour à tous. Je tiens d'abord à remercier l'organisation de m'avoir invité à participer à ce forum citoyen sur le médicament et en particulier Anne Bonnefoy pour son organisation. Alors, ma lettre de mission, en fait, pour introduire cette journée, était de vous apporter des éléments de réponse à une question relativement simple. Qu'est-ce qu'un médicament ? C'est quoi un médicament ? Et donc, on va voir ensemble ce qu'on peut dire sur cette question. Alors, classiquement, un médicament, c'est tout d'abord un principe actif. Effectivement, c'est l'essence même de ce médicament, ce principe actif qui va avoir, ou en règle générale, une activité pharmacologique, ces substances pharmacologiquement actives. Et de nombreuses substances sont utilisées en tant que principe actif dans ces médicaments. On peut citer notamment l'acide acétylsalicylique, le fameux aspirine, mais des substances beaucoup plus communes, comme le fer, sont des principes actifs qui peuvent intervenir dans les médicaments. Mais le médicament, ce n'est pas seulement une substance pharmacologiquement active. Effectivement, beaucoup d'ailleurs de substances ayant montré des propriétés pharmacologiquement actives ne deviendront jamais des médicaments pour différentes raisons. Donc dans un médicament, il y a à travers ce principe actif des excipients, ces fameux excipients qui vont servir la plupart du temps à mettre en forme le médicament et permettre de construire le médicament. Ça va être à des comprimés, bien sûr, à travers des matrices, mais aussi des solutions buvables ou des solutions injectables. Donc, il y a un certain nombre d'excipients qui sont identifiés, qui peuvent servir à la constitution d'un médicament. Ces excipients ont des propriétés diverses. Certains sont inertes, n'ont aucune action sur l'organisme, mais d'autres peuvent avoir des effets. On parle de ces excipients à effet notoire. On peut citer notamment dans ces excipients l'alcool, qui intervient parfois dans certains sirops. Et ces excipients notoires vont entraîner des effets plus ou moins importants ou vont être à l'origine, par exemple, de contre-indications. L'alcool, par exemple, va entraîner des contre-indications chez les enfants liées à sa présence dans certains médicaments. Et puis, à travers ce principe actif, ces excipients, il y a surtout la forme galénique. Effectivement, un médicament, c'est aussi une forme galénique. Cette forme galénique, en fait, va être à l'origine de l'administration de ce médicament. Elle va conditionner cette forme galénique, l'administration du médicament, par des voies très diverses. La voie orale, souvent utilisée, mais beaucoup d'autres voies sont utilisées. Des voies injectables, mais aussi des voies topiques permettent l'administration de ce médicament. Donc, au final, un médicament, c'est tout ça. Ce n'est pas simplement, effectivement, la substance active. C'est un ensemble de choses qui font que ce médicament va avoir des propriétés intéressantes pour la santé des gens. À travers cette substance pharmacologiquement active, en fait, l'origine des médicaments est diverse. Historiquement, beaucoup de médicaments étaient issus du monde végétal, mais aussi du monde minéral. Il y a encore beaucoup de médicaments qui sont issus du monde végétal, et pour preuve, la morphine, au jour d'aujourd'hui, est toujours extraite du pavot. Et la France est encore un des grands producteurs de morphine à travers l'extraction de cette substance du pavot, cette plante bien connue. Il y a aussi un certain nombre de médicaments qui font appel au monde minéral, notamment des médicaments utilisés pour des traitements de pathologies digestives. Et on peut citer l'argile appelée momorionite, qui est issue de la région et qui constitue le principe actif d'un médicament utilisé dans des pathologies digestives. On retrouve aussi des origines dans le monde animal. Effectivement, un certain nombre de médicaments sont produits encore au jour d'aujourd'hui par extraction de divers produits animaux, des abats par exemple, chez la vache, le cochon. On peut citer une molécule très connue, très utilisée et qui rend beaucoup de services, l'héparine, qui est un anticoagulant très utilisé dans la pratique et qui est issu de l'extraction des animaux. Et puis dans ce monde animal, on va y mettre aussi l'homme, puisque un certain nombre de médicaments sont d'origine humaine, notamment une série de médicaments appelés médicaments dérivés du sang, qui sont des médicaments qui vont être préparés après extraction du sang donné par un certain nombre de donneurs. Et pour constituer des médicaments, on retrouve dans cette famille l'albumine, un médicament très utilisé aujourd'hui, mais aussi des immunoglobulines qui vont permettre des traitements très spécifiques. À côté de ces origines un peu historiques ou plus récentes, il y a effectivement toute l'origine synthétique des médicaments, puisque un bon nombre de médicaments aujourd'hui ont une origine synthétique. La chimie, effectivement, a apporté beaucoup dans le développement des médicaments, et même sur des substances qui, historiquement, étaient extraites du monde végétal ou minéral, on a pu, par la synthèse chimique, obtenir les mêmes substances, et souvent avec une notion de coût moindre que l'extraction. Et du coup, la chimie a produit et produit encore beaucoup de substances pour le médicament. Et puis enfin, plus récemment, des techniques de biotechnologie, de génie génétique, permettent de produire un certain nombre de médicaments, notamment des protéines qui interviennent dans des traitements relativement spécifiques. Et vous verrez au cours de ces journées, je pense, des exemples de ces médicaments relativement modernes. Alors, dans le médicament, une notion importante est sa dénomination. Effectivement, à la structure chimique que peut représenter une substance active, je vous ai illustré ici la structure chimique de médicaments qu'on appelle l'ocytocine, peut présenter une dénomination relativement complexe, et on comprend bien qu'il est difficile de manier le médicament à travers cette dénomination chimique qui est pourtant relativement précise. Et du coup, il existe une dénomination dite commune internationale qui est définie par l'Organisation mondiale de la santé et qui va présenter finalement une dénomination beaucoup plus pratique à l'utilisation, cette DCI que on recommande dans l'utilisation pratique des médicaments, qui permet d'identifier le médicament quel que soit le pays dans lequel on se retrouve. C'est un moyen effectivement de bien reconnaître son médicament puisqu'elle est commune à l'ensemble des pays. Enfin, il y a une dénomination commerciale qui, elle, en fait, peut varier d'un pays à l'autre et qui présente, pour le coup, un certain nombre d'inconvénients, même si c'est le nom propre du médicament, parce qu'on va le rappeler, mais le médicament est aussi une propriété industrielle. Dans les médicaments, il y a différents types de médicaments avec des objectifs différents, effectivement. Notamment, on distingue quatre classes d'action des médicaments ou d'utilisation de ces médicaments. Ils peuvent servir à prévenir des maladies, c'est le cas de l'exemple des vaccins bien connus, mais ils peuvent aussi servir en tant que traitement substitutif pour pallier à des carences. Et pour ça, on a l'exemple de nos vitamines qui vont nous permettre de pallier des carences. Effectivement, on va substituer à l'absence de ces vitamines dans l'organisme un médicament qui va permettre de combler ces carences. Et puis, on a la distinction des médicaments dits symptomatiques ou curatifs. Des médicaments vont avoir comme objectif parfois très simplement pas de lutter contre la maladie, ils n'en auront pas la propriété, mais de lutter contre les symptômes de cette maladie. On a l'exemple du paracétamol, cette molécule bien connue qui va permettre par son action antipyrétique de lutter contre la fièvre, mais pas forcément, mais pas du tout même, contre les causes de cette fièvre. Donc on parle de traitement dit symptomatique. Et puis plus classiquement, en tout cas à l'esprit des gens, un certain nombre de médicaments ont des propriétés curatives. Elles vont vraiment lutter contre la maladie. Et un bon exemple dans ce type de médicaments, ce sont les antibiotiques comme l'amoxicilline qui vont lutter contre la maladie à travers la lutte contre le germe. Toujours dans les différents types de médicaments, on distingue différentes thérapeutiques médicamenteuses, en fait deux grandes familles. On parle classiquement de l'allopathie, ce sont en fait tous ces médicaments, la catégorie de médicaments la plus utilisée. Allopathie du grec allos, qui signifie contre. En fait, ce sont tous les médicaments qu'on considère avoir une action contre la maladie, qui vont effectivement lutter contre la maladie, d'où le terme d'allopathie. Et on les oppose en fait à une autre thérapeutique médicamenteuse, l'homéopathie, du grec homéo semblable. En fait, cette homéopathie se base sur la théorie des similitudes qui avait été avancée par Hahnemann, avec en fait l'idée que en utilisant des substances produisant les mêmes symptômes que la maladie, on pourrait lutter contre cette maladie à travers finalement l'utilisation de doses infinitésimales de cette substance. C'est le concept de l'homéopathie. Alors, à travers ces définitions, on a surtout la définition aujourd'hui du médicament à travers la loi. Effectivement, le médicament est un produit très réglementé. Et c'est la loi qui définit le médicament dans un article, l'article L511 du Code de la santé publique, qui permet de définir ce qui est ou ce qui n'est pas un médicament. Et c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de débats sur ce qui est un médicament ou ce qui n'est pas un médicament, ce qui fait partie du monopole des médicaments ou pas. Et c'est la référence à cette loi qui permet de définir si on est face à un médicament ou non. Vous avez la définition ici, et en fait, dans cette définition, on va le voir, il y a une vision assez large du législateur sur ce qu'est ou pas un médicament, qui peut être découpé en trois parties. En fait, dans cette définition, on retrouve une notion de présentation qui dit en fait qu'une substance présentée comme ayant des propriétés curatives, donc présentée dans le sens qui a ou qui n'a pas des propriétés curatives, mais simplement le fait de présenter cette substance comme ayant ses propriétés curatives peut en faire un médicament. On appelle ce type de médicament un médicament par présentation. Je vais vous illustrer en fait un exemple pour ce type de médicament. L'exemple des vitamines, bien connu, ce sont des substances qui naturellement sont présentes dans un certain nombre d'aliments, on le sait, et qui sont nécessaires à notre bonne santé. Eh bien, ces vitamines, si elles sont présentées dans une forme qui ressemble à un médicament, si elles sont présentées comme ayant une indication, soigner quelque chose, la fatigue, l'exemple que j'ai pris ici, et si en plus de ça, elles sont présentées avec une posologie, eh bien, nous avons bien affaire à un médicament par présentation, même si cette substance en elle-même n'est pas forcément restrictive dans son administration, en tout cas dans son apport chez l'homme. Donc c'est vraiment une notion importante qui est débattue aujourd'hui, puisque c'est un petit peu les débats qu'on peut avoir par rapport à la distribution de ce type de produits qui sont considérés à travers en fait cette réglementation comme des médicaments, effectivement. Un deuxième type de médicament qu'on peut identifier, c'est classiquement une définition à travers les fonctions qu'on va donner au produit qui vont faire que ce produit va être considéré comme un médicament. Et notamment dans la définition de la loi, on retrouve que l'établissement d'un diagnostic, un médicament, un produit qui va permettre d'établir un diagnostic, eh bien par sa fonction constitue un médicament. Et on a là encore l'exemple du test de grossesse qui va permettre effectivement d'identifier la présence d'une grossesse ou non. Eh bien, de par sa fonction de diagnostic, ce produit va être considéré comme un médicament, et vous le savez, aujourd'hui, ça pose débat, mais dans la réglementation, l'interprétation de la réglementation fait comprendre que ce type de produit fait partie du monde du médicament. Et puis, plus classiquement, un certain nombre de médicaments vont être définis simplement par leur composition, c'est-à-dire que la substance même qui les compose a des propriétés identifiées comme curatives ou autres, et en fait, on parle de médicaments par composition. En fait, il existe un certain nombre de substances qui vont être identifiées par le ministère comme substances vénéneuses au sens historique du terme. Elles sont utilisées pour notre bonne santé, mais cette liste de substances vénéneuses définit en fait un certain nombre de principes actifs qui, par le simple fait d'être dans un produit, vont faire que ce produit va être un médicament puisque la substance est inscrite sur la liste des substances vénéneuses. C'est à travers cette liste qu'on va identifier les différents types de médicaments que vous connaissez peut-être, mais les médicaments dits de liste 1, de liste 2 ou les stupéfiants, hein, qui sont des catégories particulières de substances vénéneuses qui vont donner quelques réglementations un peu spécifiques liées aux médicaments. Effectivement, vous le savez, il y a un certain nombre de médicaments qui ne nécessitent pas d'ordonnance, ils ne sont pas sur la liste des substances vénéneuses en tant que telles. Et puis d'autres médicaments, en fonction du risque inhérent à la substance, vont faire partie de la liste 1, qui nécessite une prescription obligatoirement et qui ne peut pas être renouvelée comme ça, ou de liste 2, qui sont des médicaments qui nécessitent une prescription, mais qui peuvent être renouvelés sans accord particulier. Et puis bien sûr, la particularité des médicaments dits stupéfiants, qui vont avoir une réglementation là encore très spécifique. Alors, c'est quoi un médicament, effectivement ? Eh bien, une définition, en tout cas, une donnée importante, c'est que ce n'est pas un produit comme les autres, effectivement. Ce n'est pas un produit industriel comme les autres. Il a effectivement une vocation de santé publique, hein, qui lui fait que c'est un produit spécifique. Il est soumis à une réglementation très contraignante, hein, et c'est ce qui a d'important dans la définition d'un médicament, puisque à partir du moment où une substance, un produit pardon, industriel est étiqueté comme étant un médicament, il va devoir subir toute une réglementation particulière que vous verrez au cours de ces journées. Enfin, il bénéficie plutôt d'un financement spécifique à travers l'assurance maladie notamment. Hein. Et puis, il suit tout un circuit très particulier, hein, notamment un circuit qui va être contrôlé à chaque étape par un pharmacien. Enfin, pardon.
Deux minutes.
Enfin, il y a une évaluation très stricte de ce médicament à travers l'obtention d'une autorisation de mise sur le marché. Hein, et nous verrons dans cette journée que cette AMM, ce dossier d'AMM est important. L'idée de ce dossier d'AMM, c'est qu'effectivement, à partir du moment où un produit industriel est identifié comme un médicament, il va subir tout un tas de tests très importants, très poussés, hein, pour en fait avoir à la fin l'obtention d'un produit qui aura fait la preuve de son efficacité et de sa bonne tolérance. C'est vrai que cette réglementation, cette identification du produit en tant que médicament va entraîner des conséquences très différentes comparées, il n'y a pas de mal, comparées à un autre type de produit industriel. Et c'est vraiment toute la singularité du médicament. Hein. Il faut savoir que l'ensemble des produits industriels qui vont être commercialisés aujourd'hui, aucun autre produit industriel ne va avoir ce niveau d'évaluation que le médicament, avec cet objectif, bien sûr, d'avoir une certaine sécurité d'utilisation des médicaments. C'est vraiment une grande spécificité de ce produit, hein, c'est d'avoir cette évaluation très, très poussée. Alors, un médicament, effectivement, c'est deux facettes. C'est les propriétés qui sont les propriétés attendues, hein, c'est bien fait sur la santé, et ce sont, on l'a vu, des produits industriels qui ont une vocation de santé publique, donc qui ont vraiment un bienfait reconnu, mais qui comportent de façon intrinsèque, systématiquement, une certaine toxicité, en tout cas à travers un certain nombre d'effets indésirables. Il va y avoir effectivement cette double facette. Et en fait, c'est là encore toute la spécificité de ce médicament, d'avoir des suites patients en fait, dans lesquelles on va finalement, à travers toutes les études, toutes les évaluations qui sont faites pour obtenir cette fameuse AMM, on va avoir une évaluation de la balance bénéfice-risque de ce produit. Une balance qui aujourd'hui n'est pas retrouvée hein, pour l'ensemble des produits industriels classiques, mais qui va vraiment être définie à travers ce médicament. Donc en fait, il y a vraiment des bénéfices au travers de la santé, hein, à travers de l'indication qui va permettre de soigner un certain nombre de maladies. Et puis, inhérent à cette substance, il va y avoir des effets indésirables qui peuvent se manifester avec une certaine toxicité. Et du coup, à tout l'objectif des évaluations, ça va être effectivement de définir la balance bénéfice-risque, c'est-à-dire en fait les situations pour lesquelles le bénéfice pour le patient est supérieur au risque encouru par ces effets indésirables. C'est pour ça que ces médicaments ont un circuit particulier avec une prescription, une dispensation, parce que cette balance bénéfice-risque, finalement, c'est une balance individuelle propre à chaque patient qui nécessite finalement une évaluation individuelle au moment où elle est prescrite et au moment où elle est dispensée au regard effectivement du bénéfice et du risque que le patient va avoir si on prescrit effectivement ce médicament. Donc on le voit vraiment un produit pas comme les autres qui a quand même un degré de sécurité relativement important, mais qui nécessite d'avoir effectivement un certain nombre d'informations et donc un certain nombre de contrôles, de sécurisation pour que la balance bénéfice-risque, en tout cas l'utilisation du médicament, se fasse toujours dans les conditions où cette balance bénéfice-risque reste positive pour le patient. Voilà, je terminerai par cette affichette du ministère de la Santé hein, sur le médicament qui n'est pas un produit comme les autres, comme j'ai essayé de vous le présenter, hein, avec quelques informations sur son utilisation hein, qui relève de ce qu'on vient de dire aujourd'hui hein, par rapport à effectivement cette balance bénéfice-risque, ce risque toujours inhérent à son utilisation. Voilà, je vous remercie. J'espère que je vous ai apporté quelques éléments dans la compréhension pour appréhender cette journée et ces journées sur la connaissance du médicament. Merci.
On va vous poser des questions. Voilà, merci beaucoup. S'il y a des questions, monsieur.
Merci. La première question concerne la disponibilité sur Internet du document dont a parlé M. Moreau concernant l'expo sur médicaments. Je suppose que l'info existe sur vos documents. Bon, d'accord. La deuxième question, ça concerne la dénomination des médicaments. Alors, il y a une dénomination qui s'appelle DCI, qui est commune, internationale. Et de mon point de vue, c'est celle qui est dénominateur commun entre ce que prescrit un Allemand, un Français, un Américain. Si on se permet de prescrire avec la classification symptomatique, on introduit des paramètres invraisemblables et peu contrôlables, je trouve, alors que apparemment, c'est ce qu'on fait. Alors, c'est donc une question, est-ce qu'on peut imposer aux médecins un type de dénomination qui serait universelle ? Évidemment, pas la nomenclature initiale. J'ai une autre, la substance présentée comme le médicament, substance présentée comme ayant certaines propriétés. Ça me paraît assez scabreux, mais c'est la loi. Mais ça me paraît vraiment bizarre, présentée comme.
Je vais peut-être répondre une par une, parce que je vais oublier peut-être les questions. Je vais commencer par la question sur la dénomination commune par rapport à la dénomination commerciale. Alors, là encore, on a deux facettes dans le problème. Effectivement, cette dénomination commune internationale a beaucoup d'avantages et aujourd'hui, la réglementation impose de prioritairement prescrire en DCI, travailler en DCI. Avec nos étudiants, on travaille en DCI et c'est ce qui permet effectivement de sécuriser, vous avez raison, hein, en partie l'utilisation, la prescription du médicament. Maintenant, il faut bien voir que c'est un produit industriel et c'est une part importante de la notion du produit, c'est un produit industriel et en dehors du générique, où vous verrez des définitions de ce générique, il est difficilement imaginable que l'industriel n'ait pas une identification propre de son produit. C'est pour ça qu'il existe cette dénomination commerciale et qu'il existera toujours une dénomination commerciale en rapport avec l'investissement, le fait que ce soit un produit commercial, un produit industriel. Sur la question présentée comme, effectivement, on peut voir cette définition de la loi comme scabreuse. Mais je vais essayer d'illustrer peut-être son intérêt. C'est, je pense, en tout cas, dans l'idée qu'on a du médicament par présentation, aussi une protection des patients à travers notamment le charlatanisme, puisque c'est une notion importante. Et aujourd'hui, on sait qu'il y a pas mal de problématiques autour de ça. Et effectivement, on peut tout simplement dire qu'un sachet de sucre présenté comme pouvant guérir de n'importe quelle maladie en prenant un gramme de sucre matin, midi et soir deviendrait un médicament. Et tout l'intérêt, c'est que s'il est présenté comme ça, eh bien, au niveau de la loi, ça va être un médicament. Et donc, on va devoir vérifier que ce qui est avancé par la personne sur la commercialisation de ce sucre en sachet d'un gramme pour guérir une maladie avec une posologie, eh bien, il va falloir le vérifier à travers notamment des essais cliniques, des données de preuves fiables. Et du coup, on voit que cette notion de médicament par présentation, elle peut avoir un intérêt, en tout cas en termes de protection, au moins sur le charlatanisme qui peut être effectivement des notions dangereuses même.
L'autre question ?
Il y en avait une troisième.
Quand on dit la balance bénéfice-risque, effectivement c'est un concept vraiment très tout à fait passionnant, c'est propre à chaque patient. Alors ça me paraît à la fois normal et incroyable parce que je n'ai pas connaissance qu'au moment d'une visite médicale, il y ait un interrogatoire précis sur l'effet des médicaments qui ont été prescrits la fois d'avant. Autrement dit, ou alors il faut que le malade se plaigne de certaines choses, mais comme on sait que son expression n'est pas forcément très rationnelle, il faut que le médecin fasse la part des choses. Ça me paraît compliqué à ce niveau-là.
C'est compliqué. Je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a toutes ces années de médecine dans les études. Et effectivement, c'est compliqué. Mais c'est une chose qu'a à l'esprit en fait, le médecin au moment de la prescription. Et c'est vrai que c'est peut-être là aussi toute son intelligence de ne pas faire paraître qu'il va y avoir un interrogatoire, une anamnèse serrée, etc. Et c'est aussi un des intérêts du médecin généraliste, du médecin de famille, le médecin correspondant qu'on appelle aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup d'informations que possède ce médecin, direct ou indirect, hein, ou des moyens d'obtenir des informations et qui constituent, dans la grande majorité des cas, hein, l'acte de la prescription et du coup le bénéfice-risque tel qu'il est évalué. Le pharmacien, au moment de la dispensation, va aussi avoir un certain nombre d'éléments, hein, et chercher à avoir ces éléments pour essayer de conserver un maximum le patient dans les conditions bénéfice-risque. Hein, et si on n'est pas dans ces conditions, effectivement, hein, il n'y aura pas la prescription.
Alors, je crois qu'il y a une quatrième question.
Oui. Qui procède à l'étude qui permet de mettre le médicament sur le marché?
Alors ça, je pense qu'au cours de la journée, vous aurez plein d'informations sur le développement des médicaments avec les études que j'ai juste énoncées pour vous présenter en fait cette évaluation contraignante.
Merci de votre intervention très claire. Excusez-nous pour le timing. Merci beaucoup. Je voulais savoir, je pense que tout le monde ne sait pas ce que c'est que la forme galénique, si vous pouvez la définir.
Alors la forme galénique, c'est un mot qui définit en fait la forme d'utilisation. Donc une forme galénique, c'est un comprimé. C'est une forme galénique, c'est la forme comprimée. Le suppositoire est une forme galénique qui est suppositoire, et après vous avez les formes injectables, etc. C'est ce qu'on appelle la forme galénique. C'est vrai que c'est un mot peu usité au niveau du commun.
D'accord, quand vous parlez...
Et oui, ça vient de Galien, ça, oui. Ça oui, vient oui.
Du médecin, fameux médecin.
Oui, je l'étais l'aide. C'était
donc,
la médecine.
Vous avez parlé aussi de la publicité éventuelle. Donc, à partir, vous avez parlé du sucre qui peut devenir un médicament. Vous vous souvenez qu'à un moment donné, à la télévision, il y avait de la publicité pour les yaourts qu'on devait manger tous les matins comme un médicament. En fait, ils étaient obligés de retirer. Ça arrivait sur d'autres produits, ils étaient obligés
effectivement,
de...
Effectivement, voilà. Ce sont les fameuses allégations de santé, hein, ces notions d'allégations de santé. Et effectivement, l'idée de la loi est de nous protéger à travers... la vérification de ces allégations, quand elles concernent la santé, c'est relativement important. Mais il y a même des allégations en dehors de la santé qu'on demande d'évaluer. Hein, et c'est tout l'intérêt du législateur. Hein.
Vous avez aussi parlé de la dénomination internationale. Est-ce que ce n'est pas dû au fait aussi que les médicaments se promènent un peu dans le monde entier? Et est-ce que c'est dû au circuit du médicament qui peut être, enfin, il y a tout un circuit qui est assez complexe dont on parlera.
Effectivement, je pense qu'on voit... encore plus aujourd'hui l'intérêt de la dénomination commune internationale, les gens circulent beaucoup plus dans les différents pays. Et puis l'arrivée des génériques aussi a nécessité de l'identification finalement à plus d'une molécule présente dans un médicament que le médicament lui-même. Mais vraiment j'insiste sur le fait qu'un médicament c'est un ensemble de choses et donc pas simplement la substance. Donc la DCI finalement ne suffit pas en elle-même, on peut retrouver une DCI dans... trois formes galéniques différentes et elles n'auront pas du tout les mêmes indications de traitement parfois. Donc c'est vrai que ça ne suffit pas en soi. Hein. Il y a d'autres éléments avec cette DCI qui sont vraiment indispensables pour définir ce médicament. Mais c'est un moyen de sécurisation du médicament.
Oui, je voulais revenir sur une chose qu'on avait vue quand on a préparé ces journées. Le Monde avait publié en mai dernier une liste de 400 médicaments aussi connus que la biafine, le doliprane, les oméprazoles, etc., qui avaient de manière directe ou indirecte du parabène ou des dérivés de parabène dedans. Donc la question qui était posée dans l'article, c'était de savoir, la biafine existe depuis je ne sais pas combien de temps, mais assez longtemps, est-ce qu'à un moment donné, quand on met sur le marché des produits, est-ce qu'on peut imaginer que 25 ou 30 ans après, le récepteur de tout ça, qui est le corps humain, et évoluer dans de telles conditions que ce qui était neutre ou relativement neutre avant devienne beaucoup plus, entre guillemets, néfaste en termes d'effets secondaires, d'effets collatéraux et autres interactions médicamenteuses. Est-ce qu'on peut penser ça ?
Je vous remercie beaucoup de cette question parce que c'est la thématique de recherche qu'on développe à l'Université de Poitiers sur la santé environnementale et justement sur la présence de ces substances. Et finalement, à travers les parabènes, on a un bon exemple. On peut même prendre un autre exemple qui sera peut-être très parlant. C'est le fameux bisphénol A. Je ne sais pas, tout le monde a esprit de ce bisphénol A qui est présent dans les biberons qu'on a interdit. Ce produit-là, à l'origine, a été développé pour faire une hormone, pour en faire un médicament. C'était vraiment un produit qui a été développé à l'origine par la chimie pour en faire un médicament. Malheureusement, il n'a pas montré son intérêt. En tout cas, il n'a pas passé les étapes d'évaluation. Et du coup, il s'est retrouvé en simple produit industriel. Et au jour d'aujourd'hui, la fonction du bisphénol A, c'est de rendre nos plastiques plus ou moins souples, etc. Ça modifie les propriétés physiques du plastique. Et là, on voit tout l'intérêt de la réglementation. C'est-à-dire que ce produit n'est pas rentré dans la réglementation du médicament. Et donc, il n'a pas eu à subir les fourchettes codines de l'évaluation. Et résultat, cette substance, c'est propagée, parce qu'on en produit des centaines de millions de tonnes dans le monde, et cette substance est propagée effectivement dans l'environnement avec les effets pharmacologiques qu'on avait connus, puisqu'elle avait été développée pour ça, qui sont des effets œstrogéniques, donc perturbateurs endocriniens, ces mots qu'on voit un peu apparaître. Et effectivement, on voit aujourd'hui que c'est une vraie problématique de développement de certaines substances qu'on essaye de pallier à travers le programme RICH, hein, cette idée qu'on va essayer d'avoir une certaine évaluation aussi de produits industriels qui ne sont pas identifiés comme médicaments, mais qui est aussi une évaluation du risque sur la santé, d'où l'idée de cette santé aussi environnementale pour essayer de protéger les populations de ces substances en les connaissant mieux, en les évaluant un peu plus que ce qui existe aujourd'hui.
Et on ne le supprime pas?
Eh bien, la réglementation, normalement, serait la suppression en 2014 du bisphénol A. Malheureusement, alors les biberons, ça y est, ce serait suppression de tous les conditionnements alimentaires. En revanche, justement, on s'attache à montrer que malheureusement, toute la production de ce bisphénol A dans d'autres conditions fait qu'il est relargué dans l'environnement, notamment dans l'eau. Et ici, à Poitiers, on a effectivement des équipes qui travaillent, et je fais partie justement de cette équipe qui travaille sur l'eau. Et on a montré que ce bisphénol A était véhiculé par l'eau à travers les relargages, etc., et qu'on avait un certain niveau d'imprégnation. Maintenant, il faut faire cette évaluation, comme si c'était peut-être un médicament, pour dire est-ce qu'il faut totalement le supprimer ou est-ce qu'il y a des taux acceptables, pas acceptables, est-ce qu'il faut traiter les eaux, Et c'est tout le challenge de la grande enquête publique qui vient d'avoir lieu sur le bisphénol A, lancée par le ministère pour essayer d'obtenir des informations, en rapprochant de l'évaluation du médicament. Il y a eu des forums sur ça aujourd'hui, et on considère que peut-être beaucoup de substances chimiques devraient subir le même type d'évaluation avec le bénéfice-risque dans le contexte d'un produit industriel.
Monsieur Moreau évoquait le fait que les individus avaient pu évoluer et ne plus tolérer ces produits, c'est ça, hein. Je pense plutôt que c'est la montée en puissance de la pharmacovigilance et de toutes les vigilances en général, mais de la pharmacovigilance pour ce qui concerne le médicament, qui a amené certains à retirer du marché certains produits. Je pense à des produits que j'ai vus diffuser et qui, lorsque les vigilances se sont développées dans les années 65-70, ont permis de... On a constaté que ces médicaments, je pensais au Fluvisco, si ça vous dit quelque chose, un vieux médicament. Et les données de pharmacovigilance ont mis en évidence une toxicité hépatique et puis des décès. Mais tout ça n'a été permis qu'à partir du moment où on a développé les vigilances. Mais je crois que c'est un sujet qui sera abordé au cours de...
Juste pour préciser, justement, c'est une des avancées sur les vigilances, parce qu'aujourd'hui, on parle même d'environto-vigilance, c'est-à-dire justement... Pour ces produits qui ne rentrent pas dans le domaine du médicament, eh bien les vigilants ont choisi d'essayer de mettre en place une vigilance autour de ces substances qui vont en fait se retrouver dans l'environnement. En fait, le marqueur sera le fait qu'on puisse retrouver ces substances dans l'environnement, et il y aura les mêmes effectivement circuits vigilants qui vont effectivement avoir l'objectif de décider de protéger là encore la santé des populations.
Je vais pas résister au fait de reparler d'allopathie et d'homéopathie. Dans le cadre du pôle Info Santé, depuis 20 ans, à plusieurs reprises, on était amené à faire conférences, débats et autres. Il y a une évolution dans le regard qu'on porte sur l'homéopathie, puisqu'on se rappelle des problèmes de Benveniste sur ses expériences, etc. Donc ça, c'est resté un peu dans les mémoires, ça a été un peu oublié. Finalement, est-ce que vous parliez de charlatanisme et sans employer un mot si fort, est-ce qu'une bonne évaluation scientifique, systématique, bien faite par rapport à l'homéopathie, ne serait pas une façon de la mettre au niveau de l'allopathie et d'un processus, entre guillemets, classique dans le monde actuellement? Voilà. Ça, c'est pour le grand public, le très grand public, pour sortir des croyances et aller vers des choses plus objectives.
Je vais essayer d'apporter quelques éléments, parce que je pense qu'au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas apporter l'ensemble des éléments. En fait, il y a des évaluations sur l'homéopathie, de ce que je connais, je ne suis pas un spécialiste de l'homéopathie. Il existe des évaluations qui, malheureusement, n'ont peut-être pas pu montrer ce qu'on aurait pu montrer avec de l'allopathie. Et au jour d'aujourd'hui, je pense que la question est de savoir, est-ce que les éléments que nous avons pour évaluer ces médicaments en homéopathie sont les bons, ou est-ce est-ce qu'ils sont adaptés pour l'évaluation de ce type de molécules? Et je vais revenir, finalement, encore au bisphénol A pour vous donner l'illustration qu'on évolue, et c'est là ce que vous disiez. Le bisphénol A, effectivement, cette substance, aujourd'hui, elle a été évaluée classiquement en toxicologie sur le concept de Paracels. C'est la dose qui fait le poison. Sous-entendu, toute substance peut être poison, mais c'est qu'en en prenant beaucoup, ça devient poison. Eh bien, au jour d'aujourd'hui, la science a évolué et a montré qu'il y a un certain nombre de substances, dont les perturbateurs endocriniens, pardon, qui ne réagissent pas, en tout cas qui ne correspondent pas à cette notion de dose. Effectivement, ils ont une action pharmacologique, en tout cas perturbateurs endocriniens, à très faible dose. Et même d'ailleurs, lorsqu'on regarde leurs effets, on augmente la dose et ce type d'effets disparaissent pour avoir d'autres effets toxicologiques plus classiques. Et du coup, on ne s'est jamais intéressé. En tout cas, on n'a jamais pu mettre en évidence leurs effets à ces très faibles doses. Et aujourd'hui, par exemple, une des questions qu'on nous pose souvent sur le bisphénol A, c'est quel taux? Mais il n'y a pas de taux aujourd'hui, parce qu'on a montré que même à des substances très faibles, qui, heureusement, enfin, on a aujourd'hui des outils analytiques qui nous permettent de voir des substances tellement infinitésimales qu'on n'avait pas aujourd'hui avant, et on a pu mettre en évidence que ces quantités que hier, on n'était pas capable de voir, on produit ces effets perturbateurs endocriniens. Donc voilà ce que je peux peut-être dire sur l'homéopathie, sachant que scientifiquement, il y a encore des éléments qui ont évolué récemment sur le fait qu'on pouvait effectivement détecter peut-être quelque chose dans certaines dilutions centésimales, et donc qu'il y aurait peut-être un effet qu'on n'est pas capable aujourd'hui de mettre en relation par rapport au type d'évaluation qu'on fait.
Mais rappelez quand même que dans le cas du bisphénol A, il y a aussi cette histoire d'accumulation, c'est-à-dire qu'en fait, on y est exposé de manière chronique. Donc, ça n'est pas cette petite dose infinitésimale qui, administrée une fois, va conduire à ça. Voilà.
C'est vrai que c'est toute la notion de ces nouvelles, d'identifier ces nouveaux mécanismes d'action, ces perturbateurs endocriniens, qui sont effectivement liés aussi à alors l'accumulation, peut-être pas en termes pour arriver, voilà, exactement, pas pour arriver à une dose qui deviendrait toxique, mais effectivement c'est la fréquence de l'exposition, donc cette durée d'exposition pendant un temps très longtemps qui va perturber nos systèmes endocriniens et pouvoir entraîner un certain nombre de pathologies chroniques. Par exemple, le NIH, au niveau nord-américain, le NIH, c'est le National Institute of Health, le ministère de la Santé américain, on pourrait dire, non, a identifié qu'un grand nombre de maladies chroniques auraient en partie pour origine ces effets de contaminants environnementaux. Bien sûr, il n'y a pas que ça qui participe, puisque on le verra sûrement aussi au cours de ces journées, mais on est différent, chaque personne est différente, le génome est différent et on a des capacités biologiques internes différentes. Et donc, certaines personnes vont être exposées sans jamais avoir le problème, mais par contre, d'autres vont effectivement voir le problème. Et c'est là qu'il va falloir avoir les outils pour identifier qui peut être plus susceptible. On a commencé à identifier notamment, par exemple, la femme enceinte, le fœtus, des personnes plus sensibles à ces substances, bien sûr.
Juste un petit rappel historique en ce qui concerne l'homéopathie. Ça a été développé par un médecin allemand, le docteur Hahnemann, qui a expérimenté des souches homéopathiques sur sa famille, sur ses enfants, sur sa famille. Juste l'origine, après, bon, on peut creuser si on veut. Mais d'un point de vue juridique, c'est là où est utile la définition par présentation du médicament. Et je rappellerai que les médicaments homéopathiques, normalement, doivent être autorisés. Ils font l'objet d'une demande d'autorisation de mise sur le marché qui s'appelle enregistrement pour les médicaments qui sont traditionnellement utilisés comme, etc., comme certains médicaments à base de plantes. Ce n'est pas l'AMM des spécialités pharmaceutiques, chimiques, etc., mais il y a un dossier et leur fabrication est strictement contrôlée de la même façon que tous les autres médicaments, de la même façon que les médicaments allopathiques. Il y a exactement les mêmes exigences de sécurité, de qualité. Et donc, la définition juridique du médicament trouve son utilité, notamment là.
Si je peux me permettre une petite remarque, tu disais que l'homéopathie était restée dans la mémoire, les histoires de Benveniste, c'est surtout, et c'est de sa volonté, que ça reste dans la mémoire de l'eau. Bon, c'est une mauvaise plaisanterie, surtout pour dire que finalement, ce qui est important et ce qui va être évoqué, c'est... les différentes tests de médicaments. Et ce qu'avait fait Benveniste, c'est des tests in vitro, dans un test immunologique extrêmement délicat, des granulations, des basophiles, peu importe. Et c'est un problème plus large qui se pose de tests de différentes molécules, ce qu'on fait tous les jours au laboratoire, dans des modèles pas très simples à gérer, et parfois on peut se tromper soi-même, comme dit la chanson. Donc il faut être extrêmement, extrêmement vigilant, quant à l'utilisation de ces tests in vitro, qui pourtant ont pour objectif d'enlever une certaine subjectivité par rapport à un test sur l'animal ou sur l'homme. Voilà, c'est juste ce petit commentaire. Philippe Beau, tu voulais faire un commentaire ?
Oui, donc pour la DSI, je ferai un commentaire. C'est une démarche scientifique, c'est-à-dire le même terme, un seul nom, enfin la même molécule, un seul nom. Et de la même façon, le point de vue de l'homéopathie, d'un point de vue médical et scientifique, il n'est pas testé, contrairement à ce que vous dites comme les autres médicaments, il n'est pas testé contre placebo, notamment parce que c'est probablement un placebo, et qu'il y a un effet clinique, c'est l'effet placebo, qui est tout à fait extraordinaire, que certains médecins emploient tous les jours pour les pathologies légères. Mais faire grimper l'homéopathie au rang des thérapeutiques les plus efficaces, c'est vous franchissez un pas qui est peut-être un peu olé olé quand même. Donc je me permettrai, je resterai sur ces commentaires relativement neutres, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Et si vous avez un cancer, n'allez pas voir un homéopathe.
Merci. Oui, monsieur Dupuis, vous avez parlé de allopathie contre homéopathie. Et là, justement, je voudrais souligner qu'il y a une complémentarité. Disons que dans votre présentation, c'était allopathie contre... Or, justement, il y a une complémentarité. Et c'est vrai que, et là, c'est une expérience professionnelle, c'est vrai que lorsque l'on voit des gens qui apparemment présentent des mêmes troubles, du sommeil, etc., et que certaines personnes prennent des médicaments chimiques pour dormir, et que, apparemment, avec les mêmes troubles, d'autres prennent des médicaments homéopathiques, on peut constater qu'il y a moins de risques de dépendance et que bien souvent, avec l'homéopathie, on arrive à des résultats. Bon, est-ce l'effet placebo ? C'est un autre débat.
Oui, j'ai pas mis en opposition vraiment l'allopathie et l'homéopathie. Je les ai présentées comme deux thérapeutiques médicamenteuses différentes. Mais effectivement, elles rentrent de façon globale dans la prise en charge. Je suis tout à fait d'accord avec le docteur Beau par rapport au fait qu'il y a une chose de sûre dans l'homéopathie, c'est l'effet placebo. Et on le voit pour d'autres médicaments et je donne à la pharmacie hospitalière tous les jours des placebos. Ce sont des médicaments qui sont utilisés. Et après, je ne juge pas effectivement d'autres efficacités. En revanche, l'homéopathie, à travers la réglementation qu'on vient d'évoquer, rentre comme médicament et donc sur prescription d'un médecin. Et l'avantage, justement, c'est que l'homéopathe, il est médecin et qu'il va effectivement avoir cette distinction pour les situations où on va pouvoir utiliser de l'homéopathie et les situations qui dépassent l'homéopathie et qui peuvent le dépasser aussi, et dans lequel cas, il va faire référer son patient à la personne spécialisée. C'est aussi tout l'avantage.
Alors, juste pour les non-spécialistes, est-ce que vous pouvez donner un exemple d'une concentration homéopathique, ce que ça représente, une concentration homéopathique d'un principe actif ?
Essayez d'illustrer, c'est dommage, j'ai pas de tableau avec une craie, mais je vais essayer d'illustrer. Les fameux CH, ces centésimales anémaniennes, vous savez, on parle de 9 CH. On va prendre une chose peut-être facile, 10 CH. 10 CH, ça veut dire que c'est 10
à centésimale anémanienne, c'est-à-dire qu'on prend le produit, on le dilue 10 fois, on le reprend un petit bout, on le redit 10 fois, et on le redit 10 fois, et on le redit 10 fois. En fait, le nombre de CH, c'est le nombre de fois qu'on va diluer le produit. Donc, effectivement, ça représente des quantités infinitésimales à la fin.
Oui, mais non, mais on dilue une concentration de départ. Voilà.
C'est une teinte. À la base, il y a une substance pharmacologiquement très active, hein, et effectivement, elle peut être utilisée dans sa simple dilution de teinture mère. Hein. L'homéopathie, c'est plus tout à fait de l'homéopathie, mais il y a des teintures mères qui sont utilisées telles quelles. Donc,
la dilution, c'est on le prend et on le dilue 10 fois, et cela autant de fois qu'il y a de CH. Hein, c'est bien ça. Voilà.
C'est pas 10 fois, c'est 100 fois, pardon. C'est même pire que ça. Chaque fois, on dilue 100 fois, parce que c'est une centésimale anémanielle. Donc, on dilue une première fois 100 fois, puis encore 100 fois, puis encore 100 fois. Donc. Mais bon, c'est pour ça que...
Trois questions. Marie Legrand, représentante de Poitou-Charentes Nature depuis peu de temps au Conseil économique, social et environnemental, où j'ai choisi la commission santé, alors que je suis plutôt novice sur le sujet. Alors, première question, récemment, il a été très médiatisé le fait que des jeunes filles étaient malades du fait du vaccin destiné à lutter contre le cancer du col de l'utérus. Pouvez-vous nous donner quelques éclaircissements sur cette affaire ? Deuxième question, une réglementation va entrer en vigueur dès 2014 pour mesurer... la présence de formaldéhyde et de benzène à l'intérieur d'un certain nombre de bâtiments publics, dont les écoles maternelles. Quel est l'effet sur la santé de ces produits pour qu'on en arrive enfin à les mesurer? Et la troisième n'a rien à voir. Que pensez-vous de la pratique dans les peuples dits premiers, je pense aux peuples amazoniens, mais également en Afrique, des méthodes chamaniques? Pour vous, c'est charlatan ou c'est vraiment une réalité efficace?
Alors, j'ai bien peur que... les questions dépassent mes compétences et dans le cadre de qu'est-ce qu'un médicament, effectivement, ça va loin. Pour le vaccin que je ne vais pas nommer, qui a été développé par un laboratoire, effectivement, il y a au jour d'aujourd'hui des interrogations sur des effets secondaires de ces vaccins, tels qu'on a pu évoquer dans la définition du médicament. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a des évaluations qui vont être faites par rapport à ça. Vous savez qu'il y a, il y a une discussion. Alors, Monsieur Chevalier va vous apporter peut-être plus d'informations.
Mais répondez aux deux autres questions.
Alors, je vais répondre. La deuxième question, c'était concernant des substances, effectivement, qui pourraient être considérées comme toxiques. On va encore retomber dans la discussion qu'on avait eue. Malheureusement, ces substances ne rentrent pas dans la définition du médicament et donc ont été malheureusement beaucoup moins évaluées que... si elles avaient été considérées comme un médicament. Et au jour d'aujourd'hui, dans la santé environnementale, c'est tout l'objectif de ramener des évaluations sur ce type de produits pour essayer d'avoir des données objectives pour que, effectivement, les décideurs publics puissent prendre les bonnes décisions. Et c'est tout l'enjeu de l'évaluation de l'exposition des populations à ces micropolluants. Et l'Université de Poitiers s'attache aussi à faire ces études d'évaluation pour mesurer ce qu'on appelle l'exposition des personnes, comme on l'a évoqué tout à l'heure, pour essayer d'évaluer. Quant au chamanisme, j'avoue que j'ai peu de notions sur ces pratiques et je ne me lancerai pas là-dessus si quelqu'un a des éléments. D'accord. Dans l'histoire du médicament, je pense qu'on aura des choses intéressantes. Si cette pratique, effectivement, était avancée, elle rentrerait dans le champ du médicament et nécessiterait, effectivement, l'évaluation telle qu'on l'a présentée.
Juste concernant la deuxième question sur le formaldéhyde et le benzène, en fait, ce sont des produits qui avaient été, à un moment, autorisés pour rentrer dans la composition d'un certain nombre de structures, matériaux pour le bâtiment, etc. Depuis vraiment de très nombreuses années, ces produits aujourd'hui sont interdits. Le benzène est interdit, le formaldéhyde aussi. Donc c'est vrai que lorsqu'on est dans une école dont la construction a été réalisée fin des années 60 ou milieu des années 70, on peut se retrouver effectivement avec des traces
Bon, ce sont des choses... il faut requalifier, en fait, ces bâtis, ces structures-là, etc. Mais on a démontré la nocivité de ces deux molécules. Elles sont aujourd'hui interdites. Elles ne rentrent plus dans la composition d'un certain, enfin, de tous les produits auxquels l'homme est en contact. Depuis, même le benzène, il me semble que c'est depuis 1982 ou 83. Voilà. Même avant, je crois que c'est 78. Ouais.
Oui, en ce qui concerne les vaccins, je voulais signaler que sur des sites du ministère de la Santé et de l'Agence du médicament, il y a des études ou des comptes rendus d'études détaillées. En ce qui concerne le vaccin que vous avez évoqué, madame, il y a actuellement aujourd'hui 140 ou 150 millions de doses délivrées dans le monde avec une surveillance particulière sur ce produit. Et puis, il y a eu en 2011, je crois, mais je vous dis ça de mémoire, il faut aller sur le site pour le vérifier. Il y a, c'est très dense, je ne vais pas tout vous restituer. Mais en gros, ce que j'ai retenu, notamment, c'est qu'il y avait eu en 2011 une étude sur 2 millions de jeunes filles vaccinées et que ça avait été comparé à la même population non vaccinée. Et les effets indésirables rencontrés, ceux qu'on évoque le plus souvent dans les médias, sont dans un nombre équivalent dans la population non vaccinée, dans la population vaccinée, ce qui pose le problème de l'imputabilité de la vaccination dans ces effets indésirables.
Je peux donner un complément d'information, parce que j'ai une expérience assez importante de la vaccination, de l'hépatite B, je suis gastro-entérologue. De la grippe également, quand il y a eu la grande crainte de l'épidémie particulière. Et ma femme est pédiatre aussi, et garde d'asile. Je propose également, si on peut le donner son nom, etc. Donc les informations scientifiques, parce que là aussi, il faut rester sur le domaine scientifique, n'ont jamais démontré qu'il y avait une augmentation du risque de complications neurologiques après un vaccin. La seule chose, c'est quand vous vaccinez des millions de personnes, donc en France, c'est 2 millions de jeunes filles. Les jeunes filles qui devaient faire une sclérose en plaques, pour parler simplement, eh ben, ils vont la faire quand même. Donc, statistiquement, il va y avoir des cas. Et la problématique qui se pose pour la médiatisation qui est extrêmement excessive de ce fait-là, c'est qu'à la fois, donc, l'information est dominée non pas par les médecins, mais par les médias, et qu'il y a une commission d'indemnisation qui a retenu le cas particulier que peut-être pouvait y avoir un rôle, parce que dans quelques cas, ces maladies peuvent survenir après un stimulus immunitaire du type vaccin. Donc, on peut imaginer que cette jeune fille, l'explication scientifique est, c'est que de toute façon, elle devait faire une sclérose en plaques et que peut-être le fait qu'elle ait eu le vaccin ait précipité la maladie. Mais ça ne veut pas dire que le risque, que vous augmentez le risque d'avoir une sclérose en plaques en vous faisant vacciner. Deuxième chose, quand il y a eu l'histoire, il y a eu plusieurs épidémies de grippe de différents noms, on a observer, justement, parce qu'on les regarde, ces gens-là, ils sont vaccinés, et chaque fois qu'il leur arrive quelque chose, ils incriminent le vaccin ou le médicament qu'ils ont reçu. On vit ça tous les jours en tant que médecin. On a cru, à un moment donné, c'était une épidémie aux États-Unis, qu'il y avait plus de complications neurologiques. Et quand on a repris toutes les données épidémiologiques, ça prend beaucoup d'années, beaucoup de temps, beaucoup de moyens, on s'est rendu compte que les gens vaccinés en avaient moins que ceux qui n'avaient pas été vaccinés, qui avaient eu la grippe naturelle. Donc, il faut se méfier de ces raccourcis qui sèment le trouble et notamment qui ont été extrêmement dangereux pour l'hépatite B. Il y a eu un moment, et notre ministre de l'époque, une actualité qui est extrêmement lourde, a fait qu'il y a une chute des vaccinations et on meurt. Moi, j'ai vu des gens de 20 ans mourir d'hépatite B et de cancer du foie. Et donc, à travers le monde, c'est une épidémie qui sera, c'est absolument stupide. Et si vous raisonnez comme ça, vous prenez aucun médicament et vous mourrez des maladies qui vous sont destinés. Donc je pense que mon message est suffisamment clair, mais je pense qu'on n'a pas le droit, nous médecins en tout cas, moi médecin, de relayer ce type d'informations sous cette forme-là, parce que sinon vous avez peur de tout. Bon, et donc vous avez peur de tout, vous buvez même plus d'eau aujourd'hui. Hein. Et donc il faut se méfier. Je vous rappelle quand même, aujourd'hui, les deux principaux risques, c'est quand même l'alcool et le tabac vis-à-vis des maladies.
Bon, je considère, j'ai pas du tout, je ne suis pas intervenu pour défendre la thèse du non-vaccin. Je ne sais pas si vous avez noté ce que j'ai dit. J'ai saisi cet exemple pour qu'il y ait une discussion à ce sujet, mais je ne suis pas une adepte du non-vaccin. Alors je vais remettre les choses d'aplomb. Hein. Et puis, il y a également beaucoup d'autres sujets sur la médecine, pas sur la médecine, sur les micromolécules ou les attaques telles que le formaldéhyde. Mais il y en a une sur laquelle on va consacrer nos prochaines conférences et sans doute notre assemblée générale, c'est l'impact des pesticides sur la santé humaine, en particulier dans le monde agricole et le monde de la viticulture. Je trouve qu'on n'en parle pas suffisamment. Hein. Là, je pense que c'est pas une illusion, ce que je dis.
Alors là, on sort du domaine du médicament, on rentre dans le domaine du phytosanitaire. Voilà.
Oui, bonjour. Moi, malheureusement, je ne suis pas pharmacien, je suis chimiste organicien. Et je voulais essayer de contribuer, du moins, sur le dernier point que vous aviez parlé sur le chamanisme et les molécules d'origine, je dirais, empirique. Je crois qu'il ne faut pas oublier que les pharmaciens, du moins la pharmacie, c'est l'héritage aussi de tout ça. Si on ouvre un Vidal, si on est chimiste organicien et honnête, un grand nombre de molécules, même si maintenant elles sont faites par voie synthétique, par des chimistes, les structures de base, au départ, elles sont issues de la nature, une grande partie du monde végétal, et on peut en citer énormément, quelquefois modifiées. Effectivement, le chimiste a apporté sa contribution pour avoir une meilleure distribution, pour éventuellement diminuer des effets secondaires. Mais la chimie pharmaceutique, du moins la chimie de synthèse pour la pharmacie, c'est très récent. L'homme, il n'a pas attendu ça pour se soigner. Ça fait des millénaires qu'on s'est soigné autrement. La mortalité a extrêmement baissé. Bon, on l'oublie souvent dans les statistiques, que c'est souvent les jeunes enfants qui meurent moins. Donc, effectivement, on augmente énormément les valeurs, mais on n'a pas attendu ça. Et la grande différence, c'est que la chimie, les médicaments issus des tradis praticiens sont souvent des mélanges. Et c'est des choses actuellement qu'on ne sait pas gérer. La grande différence avec les médicaments de synthèse, c'est d'utiliser un principe actif, éventuellement associé à quelques molécules. Mais on sait très bien que pour un médecin, c'est compliqué de faire une ordonnance. Un produit, c'est déjà compliqué. Dès que vous mettez un deuxième composé, ça devient compliqué. Il y a des interactions qui sont notées, certaines des fois qu'on découvre en pharmacovigilance, et ainsi de suite. Et quand vous avez 10 médicaments sur votre ordonnance, vous savez très bien que c'est extrêmement compliqué. Eh bien, peut-être que la médecine et la pharmacie du futur, ça va être aussi de tirer des informations sur certaines préparations qui sont d'ordre, comme vous disiez, chamanique ou je ne sais autre. Peut-être qu'on va découvrir des choses de ce côté-là. Donc, elle n'est pas à négliger et ça fait partie de du patrimoine de l'humanité pour soigner les hommes. Voilà. Ah, pour moi, c'est mon avis.
Juste peut-être pour le dire en d'autres termes, c'est que la médecine traditionnelle, on ne va pas parler simplement des chamans, mais ça existe partout dans tous les pays, la médecine traditionnelle qui utilise des concoctions, etc., ça n'est pas un principe actif unique. En fait, c'est un certain nombre de molécules qui sont présentes dans ces concoctions. Il y a peut-être ce que veut dire Fabien, c'est qu'il y a certainement des choses à trouver dans le cadre de la synergie qui peut exister entre plusieurs principes actifs présents dans une concoction qui conduit au rétablissement d'une personne, etc. Simplement, le chamanisme, ce n'est pas que les molécules, c'est les molécules et l'esprit. Donc, il y a un petit mélange de choses. Voilà.
Petit commentaire sur ce que tu viens de dire. Ça ne concerne pas que ces molécules extraites. La synergie de molécules, ça concerne l'ensemble des molécules, y compris les protéines qui ont été évoquées. Donc, c'est vraiment un autre problème très large.
Absolument. Alors, une dernière intervention. Il est 10h15. Nous allons passer donc à la première table ronde.
Oh, simplement, je voulais souligner aussi qu'il y a des ethnobotanistes, des pharmaciens, j'en connais, qui, par exemple, ont passé 3 ans dans la forêt amazonienne pour étudier justement la pharmacopée. Tout ça est très étudié, mais ça n'est pas nouveau. Hein. Beaucoup de médicaments sur le marché depuis 40-50 ans sont en fait des découvertes dans ces zones-là.
Très bien. Donc, merci, monsieur Dupuis, pour cette excellente présentation et vraiment très claire. Nous allons passer à la première table ronde. Et donc, j'appelle madame
Marie-Paul Jointeau, professeur Marie-Paul Jointeau de la faculté de pharmacie de Poitiers. Alors, ça, on peut l'enlever. Bien. Pendant que Marie-Paul est en train de préparer son diaporama, moi je suis ici au titre de mon activité privée et donc au titre du fait que je sois voilà, président d'une petite société, d'une petite start-up qui s'appelle Biocidex et qui développe son activité dans le cadre de la santé humaine, notamment en pharma, etc. Donc je ne suis pas là au titre de ma vice-présidence du Grand Poitiers, parce que c'est écrit « et vice-président du Grand Poitiers en charge du développement économique ». Non, je suis là au titre de mon activité privée. Alors, cela dit, donc, Marie, on va avoir trois interventions. Marie-Paul, vous m'entendez ce que je dis? On va avoir trois interventions de 10h15 à 11h15. Donc, nous avons une heure. Donc, voilà, 20 minutes par personne pour laisser le temps à la discussion. La première intervention de Marie-Paul Jointeau, ex-doyenne de la faculté de pharmacie et professeure à la faculté de pharmacie, va concerner... Donc on va avoir en fait trois interventions qui font suite à l'excellente introduction sur la définition du médicament par Monsieur Dupuis. Et la première intervention va concerner en fait le premier élan de cette chaîne de valeur, comment on va de la découverte, c'est-à-dire de la recherche fondamentale, etc., de la découverte d'un médicament à sa mise sur le marché. Et... Marie-Paul va d'abord nous entretenir à propos de la découverte d'un médicament, comment on y arrive, dans quelles conditions et comment on considère qu'à un moment donné, une découverte peut faire l'objet d'un futur médicament. Je te donne la parole.
Alors, le sujet qu'on m'a donné, c'est comment découvre-t-on les médicaments aujourd'hui. C'est un très vaste sujet et très difficile à traiter parce qu'il y a beaucoup de pistes. Et en plus, moi, je vais dire, on ne va pas chercher un médicament, on va chercher un candidat médicament. Parce que dans toutes les molécules qui vont être testées, vous en avez peut-être 100 000 et plus, il risque d'y avoir une molécule, une entité qui va devenir un médicament. Donc tout d'abord, je vais reprendre un peu d'où viennent les médicaments, quelles sont les évolutions, parce que ces molécules, elles ont été utilisées, et après elles ont évolué, on a fait des dérivés, et ensuite j'essaierai de voir comment, qu'est-ce qui est à l'heure actuelle, les entités qui sont susceptibles d'être des médicaments, quels sont les médicaments actuels que l'on cherche. Alors, tout d'abord, un petit peu d'historique. Les premiers médicaments, nos ancêtres, sont toujours soignés, les gens. Ont été la salive, la terre et l'eau. Et puis, après, durant des siècles, on a cherché dans la nature ce qui pouvait servir pour soigner les gens. Bon, on a donc surtout des médicaments d'origine végétale. Ça a surtout été ça. Mais également aussi d'origine animale et minérale. Et de tout ça, on a des indications, c'est que, par exemple, 2900 ans avant Jésus-Christ, on a le plus vieux traité de médecine chinoise qui mentionne déjà 356 remèdes à base de plantes. Bon, il y a eu une première classification des plantes qui a été faite par Dioscoride, Pline l'Ancien, Théophas et puis Galien, qui est un médecin qu'on appelle le père de la pharmacie. Au XIIIe siècle, le traité de Nicolaos a fait un guide qui a été le guide des apothicaires et qui a été valable jusqu'au XVIIe siècle. Puis après 1820, c'est la découverte, c'est l'isolement de la quinine à partir du quinquennat. En 1890, ce sont les premières synthèses chimiques. Alors, et au XXe siècle, on a commencé l'essor des synthèses chimiques et de l'hémisynthèse. Et on va synthétiser des produits naturels, on va les transformer et on va avoir de nouveaux médicaments. Et à ce moment-là, à partir de ce moment-là, c'est la course au brevet, la notion de propriété. Une autre grande étape, c'est 1980, c'est le début des biotechnologies. C'est-à-dire que le principe actif, il vient d'une cellule humaine et ce sont les micro-organismes qui vont le fabriquer. Et puis, je dirais, dernière étape de ces découvertes, c'est la thérapie génique, avec correction d'un gène défaillant. C'est la thérapie cellulaire, apport des cellules produisant la cellule manquante. Alors tout cela, cette dernière partie, est simplement dans l'avenir et il y a très peu de choses dessus. Alors, la recherche des molécules, on peut dire trois grandes voies. Soit on extrait une substance à partir de produits naturels, d'origine végétale, animale ou minérale. Soit on a on les obtient par synthèse chimique, c'est-à-dire qu'on fabrique les médicaments par des réactions dans des ballons et après dans des réacteurs. Ou alors on transforme des produits naturels, on prend un produit naturel et on en transforme une petite partie par hémisynthèse. Soit troisième chose, création et production de substances biologiques par les biotechnologies, ce sont les biomédicaments. Alors, je vais revenir un petit peu sur tous ces domaines. Les molécules d'origine naturelle, source de médicaments. Alors, comme a dit Fabien, les produits naturels ont été très utilisés, ils sont encore utilisés par les tradipraticiens. Ils avaient une activité, on les a découverts pour avoir une activité. Donc, ça voulait dire qu'on avait des molécules dedans à activité biologique, c'est-à-dire des principes actifs. Et est-ce que ces principes actifs peuvent devenir médicaments ? Alors Hippocrate disait « la nature est le médecin des malades ». Alors le milieu naturel, c'est quand même source de médicaments et d'outils biologiques. Alors dans les milieux naturels où il y a les plantes, c'est ce qui a été le plus utilisé, environ 10% étudié. Il y a les micro-organismes, mais il faut savoir que moins de 10% des bactéries et des champignons sont étudiés. Et les sources marines, qu'on étudie beaucoup plus en ce moment, mais c'était très très peu étudié, c'est de l'ordre de 0,01%. Et les insectes, aussi en très petite quantité, moins de 0,05%. Alors, l'importance des produits naturels dans les médicaments actuels, on peut dire que 25 à 50%, alors j'ai trouvé ça dans une référence où je ne suis pas, à la dernière ligne, je ne suis pas tout à fait d'accord, mais enfin, 25 à 50% des produits couramment vendus trouvent leur origine dans des produits naturels. Donc une grosse partie des médicaments que vous utilisez, ils ont une origine plus ou moins directe, ce sera forcément des produits naturels, mais ils ont une origine dans les produits naturels. Entre 1981 et 2005, il y avait 50% de nouveaux médicaments qui ont des principes actifs d'origine naturelle, et origine naturelle au sens large. Ça veut dire pas forcément extrait d'un produit naturel, mais aussi provenant d'une source naturelle qui a été transformée. Et puis on dit qu'en mars 2008, d'après cet article, 225 molécules d'origine naturelle sont en cours de développement. Donc il y a beaucoup, beaucoup de molécules qui sont testées en préclinique, mais dans toutes ces molécules, peu deviendront ou presque pas deviendront des médicaments. Alors, pourquoi ces molécules d'origine naturelle ont une place importante ? Donc ils ont une place importante parce qu'à l'heure actuelle, ça constitue une grande partie des médicaments. On fait toujours des recherches et de développement de nouveaux médicaments. Et à partir de ces produits naturels, il y a trois sources. Soit on va rechercher des molécules naturelles directement dans la nature. Soit, je répète, on va effectuer des modifications sur les produits naturels. Alors, c'est l'hémisynthèse. Alors, je vous ai fait un petit schéma. Vous avez une molécule. Elle a cinq parties. Et puis, on va voir son analogue. C'est-à-dire que la partie jaune qui est là, on va mettre autre chose à la place. Soit, on se sert de cette structure de produit qu'on a isolé et on va faire des analogues totalement par synthèse. Donc, les sources de principes actifs d'origine naturelle, bon, comme j'ai redit, sont les plantes, les animaux, les micro-organismes, les organismes marins. Alors, je vais citer quelques exemples bien connus. Alors, d'origine, par exemple, les molécules d'origine végétale. Alors, le pavot. Le pavot, c'était l'opium, ça a été utilisé depuis l'Antiquité. Mais dans l'opium, il y a 25 alcaloïdes différents. Et l'alcaloïde principal, c'est la morphine qui est toujours utilisée. Mais il faut savoir que cette morphine, elle a été isolée en 1806, mais que quand on a isolé la morphine, on ne pouvait pas l'utiliser. Parce que c'est un produit qui ne peut pas se prendre par voie orale, qui est dégradé. Donc il a fallu attendre qu'on invente la seringue hypodermique pour pouvoir utiliser cette morphine. Donc à chaque fois qu'on a un produit actif, il peut y avoir une contrainte derrière qui fait qu'on ne peut pas l'utiliser tel quel ou qu'il faut attendre une autre découverte pour pouvoir l'utiliser. Cette morphine, quand on l'a utilisée, on ne connaissait pas du tout sa structure. Elle n'a été découverte que beaucoup plus tard, en 1926. Et à partir du moment où on a trouvé la structure de la morphine, eh bien, on a pu faire des analogues et des dérivés. Une autre aussi grande découverte, c'est l'aspirine, à partir du saule et de la reine des prés. Bon, c'était utilisé pour soulager les fièvres et les douleurs. Et Hoffmann a synthétisé, à partir de structures qui étaient connues dans le saule et la reine des prés, un produit qui est l'acide acétylsalicylique, l'aspirine, qui est un brevet qui a été pris par la société Bayer. Et puis, c'est un produit qui est encore très vendu dans le monde. Bon, alors, je ne résisterai pas à la pervenche de Madagascar, bon, bien connue de mon laboratoire. Bon, la pervenche de Madagascar, c'était un remède contre le cancer. Donc, dans les années 60, on a isolé des alcaloïdes qui étaient actifs contre le cancer. La vincristine et la vinblastine. Mais il faut savoir qu'à partir des produits naturels, on isolait quand même très peu de produits actifs. Et ça, donc à partir d'une tonne de plantes sèches, déjà il y a une tonne de plantes sèches, ça vient à peu près de 10 tonnes de plantes recueillies, on avait 100 grammes de vinblastine et 10 grammes de vincristine. Donc vous voyez les quantités, donc c'est ça aussi. Le problème des produits naturels, c'est que les produits sont présents en petites quantités et c'est un frein et pour le développement et pour l'utilisation. Alors à partir de cette pervenche de Madagascar, on avait des produits précurseurs de ces produits-là qui étaient présents en beaucoup plus grande quantité dans la plante et qui ont permis de faire, c'est Potier qui a fait ça, un Français, de faire l'hémisynthèse, c'est-à-dire de faire les mêmes produits par hémisynthèse et d'avoir des quantités beaucoup plus importantes. Et à partir de ces produits naturels, on a modifié des éléments. Et on a trois produits qui sont actuellement commercialisés. La vindésine, qui est plus ancien, la vinorelbine, la velbine, qui a été mise au marché en 89, et la vinflunine javelore, bon, qui vient un petit peu de Poitiers, qui vient beaucoup de Poitiers. Bon, autre produit, l'IF. L'IF, ben, on a remarqué que ces baies, qu'on appelle des aries, sont toxiques. Donc à partir de cette constatation, il y a des chimistes qui ont isolé deux produits, le paclitaxel, un produit, le paclitaxel, c'est la DCI et le taxol, c'est le nom commercial. Mais c'est là aussi, même problème, un gramme de taxol il fallait pour en avoir un gramme 10 kg d'écorce sèche. Donc ça faisait abattre un nombre d'arbres considérable. Et Potier, toujours lui-même, a isolé un produit, dont je vous ai mis le nom, qui a permis l'hémisynthèse, c'était un précurseur du taxol, qui a permis, à partir de ce produit, d'avoir de l'hémisynthèse du taxol, donc d'avoir le taxol en beaucoup plus grande quantité, et aussi de faire un produit dérivé avec une activité supérieure, le taxotère. Là, on pouvait avoir un gramme de taxol par kilo d'aiguilles sèches, et on ne prenait que les aiguilles. Bon, autre exemple, c'est la camptothécine, qui est beaucoup plus récemment, a donné deux médicaments, Camto et Icantin, pour le traitement des cancers. Bon, on a aussi l'origine animale. Alors, l'homme primitif, ben lui, il utilise quoi? Il utilise les viscères, les graisses et le sang des animaux. Au XVIIIe siècle, on a utilisé les animaux entiers, par exemple les sangsues. Après, vers 1820, on a commencé à extraire. C'est l'huile de foie de morue. Et puis, au XXe siècle, bon, on a extrait des molécules biologiques. Et on s'est intéressé, on s'est intéressé au fonctionnement physiologique de ces modèles animaux. Donc, on a regardé comment ces modèles animaux produisaient des molécules biologiques. Et à ce moment-là, quand on a identifié ces phénomènes-là, on a essayé d'avoir des agents thérapeutiques qui pourraient servir dans certaines pathologies. Alors, dans ces produits biologiques, bon, faut d'abord, je vais donner comme exemple l'insuline. L'insuline, qui était au début extraite des pancréas de porc ou de bœuf, et la première injection d'extrait pancréatique a été faite chez un jeune homme en 1922. Ensuite, il a fallu quand même mettre ce produit, le sécuriser, je veux dire, faire un médicament. La première mise au point de la première insuline, c'était une insuline lente qui avait une longue durée d'action, c'était en 1936. Ensuite, on a eu des insulines qui avaient des actions moins longues, parce que le problème de l'insuline, c'est son gros effet indésirable, c'est qu'elle peut donner des hypoglycémies. Donc, il fallait trouver des molécules, enfin des moyens d'avoir des actions plus courtes. Ensuite, dans les années 80, eh bien, il fallait avoir la production industrielle d'insuline, que j'ai mis entre parenthèses, humaine ou humanisée. Parce que le problème, c'est que quand on extrait des animaux, on peut récupérer des contaminants et avoir des maladies, transmettre des maladies que peuvent avoir les animaux. Donc, pour humaniser cette insuline, bon, on avait deux produits, on a utilisé deux méthodes, l'hémisynthèse, parce qu'il faut savoir que dans l'héparine porcine, la différence entre l'héparine porcine et l'héparine humaine, c'est que vous avez un seul acide aminé, un seul petit rond qui diffère. Là, un peu seul acide aminé. Donc on a transformé, on a humanisé l'insuline porcine. Bon, autre chose, une autre grande méthode qui est utilisée maintenant, c'est la biosynthèse. Et dans cette biosynthèse, je vous montrerai tout à l'heure un schéma représentant cela. Ben, on a isolé le gène qui code la fabrication de l'insuline chez l'homme. On l'a inséré dans une bactérie ou une levure, on l'a fait reproduire, et ça permet d'avoir des productions d'insuline en quantité très importante. Et puis, 1990, on a modifié la composition de cette insuline et on a obtenu différents types d'insuline, Lantus, Humagox, dans les années 2000. Deuxième produit, l'héparine, un produit assez important, bon, extraite de la muqueuse intestinale de porc. Elle a été découverte il y a très longtemps, c'était en 1916, et cette héparine, elles ont évolué. Au départ, on avait les héparines non fractionnées, c'est-à-dire entières, comme sur le premier schéma. Ensuite, on a obtenu des héparines qu'on a appelées fractionnées, des petits bouts d'héparines qui pouvaient avoir la même activité, de plus en plus faible. Et en 2003, on a une héparine de synthèse qui est Arixtra, qui fonda Parinus. Bon, autre produit extrait, c'est l'hormone de croissance, avec tous les problèmes qu'ont posé les hormones de croissance et les scandales qu'il y a eu sur l'hormone de croissance. Donc tous ces produits qui venaient naturels, ils avaient quand même tous un problème de contamination et de traçabilité, et c'est pour ça qu'il y a eu de gros efforts de fait et que rentre en ligne la production en milieu contrôlé par les biotechnologies. Alors l'origine microbiologique, bon, l'intérêt des micro-organismes, c'est qu'on a une colonisation de tous les biotropes, donc une capacité des micro-organismes de s'adapter, ce qui conduit à un métabolisme, c'est-à-dire à produire des produits très diversifiés, que ces produits, oh, alors je me dépêche plus que ça, ils sont cultivables en laboratoire et que ces produits sont variables selon les conditions de culture. Alors là-dedans, bon, vous avez les vaccins, vous avez les pénicillines. Comme il reste 2 minutes, je vais arrêter. Les céphalosporines. Bon, les antifongiques, avec un antifongique de nouvelle famille, la caspofongine, et la micafongine, qui sont des produits qui ont été qui ont eu une vie humaine très rapidement, beaucoup plus rapidement que les autres médicaments, parce que ça, ça sert à traiter des infections particulières. Un grand progrès aussi, les inhibiteurs de kinase, qui sont des anticancéreux, avec, qui sont issus du sol de l'île de Pâques, contre le cancer du rein métastasé. Bon, l'origine minérale, bon, on en a déjà parlé, donc on a quelques produits. À l'heure actuelle, c'est un domaine qui n'est pas du tout exploité. Alors, deuxième, autre chose, l'origine synthétique. Donc, le synthétique, soit par hémisynthèse, soit on fait une copie d'une molécule qui existe, soit chimie combinatoire, c'est-à-dire qu'on va faire une synthèse automatisée et qui va partir d'un fragment qui va permettre d'obtenir beaucoup de molécules différentes. Quatrièmement, eh ben on connaît la structure des enzymes. On sait, par exemple, il faut que ce qui est en jaune rentre dans le petit truc bleu, là. Donc, on va faire une molécule qui va occuper cette place-là, qui empêchera l'autre d'agir et d'avoir son action. La biologie moléculaire, on connaît la structure du récepteur. À partir de cette structure de récepteur, on peut soit faire quelque chose qui va augmenter l'activité, l'action de ce récepteur, déclencher la clé, soit une molécule qui va bloquer ce site d'action et qui empêcher d'avoir son activité. Et puis, très récent et qui est une grosse découverte quand même, ce sont les marqueurs chromosomiques spécifiques d'une maladie. On va avoir une maladie, on va avoir un marquage particulier, c'est dans le cas de la leucémie myéloïde chronique, et on va créer une molécule qui empêche ce chromosome particulier d'agir. Et ça, ces médicaments ne sont réservés qu'aux malades porteurs de ce chromosome. Donc c'est Glivec, le premier. Alors, les molécules issues des biotechnologies, dans ces molécules, l'étape clé des médicaments, c'est les protéines. Donc le gène, c'est un centre de décision qui va donner une protéine et qui va avoir une action sur le médicament. La première chose, on a produit des protéines d'intérêt thérapeutique. Ben, par exemple, ce que j'ai décrit tout à l'heure, production d'insuline. On prend le gène de l'insuline, on l'injecte dans des bactéries et on fait produit de l'insuline. Deuxième étape dans ces biotechnologies, c'est la production des interférons, des facteurs de la coagulation. Troisième étape, les vaccins. Donc, j'ai cité le vaccin du papillomavirus. Alors, dans ce vaccin, c'est les protéines de l'enveloppe virale qui ont été produites dans la levure, réassemblées, pour donner des particules pseudovirales. Mais vous n'avez pas le matériel génétique du virus, c'est-à-dire, et ça confère une immunité. Alors, quatrièmement, grosse découverte de ces dernières années, hein, de ces 30 dernières années, et beaucoup, beaucoup de médicaments qui sortent dans ces produits-là, ce sont les anticorps monoclonaux. On injecte de l'antigène, un antigène intéressant chez une souris. Cet antigène, c'est une réaction normale, va produire chez la souris un anticorps. On va le fusionner avec des cellules qu'on appelle immortelles, et on va produire des anticorps, tous pareils, des cellules hybrides. Alors, c'est tous les médicaments qui finissent par MAB. Le premier médicament, c'est Murumomab, qui est en 1986, mais il y en a beaucoup, et dans toutes les pathologies, dans beaucoup de pathologies diversifiées. Hein. Et il y en a, par exemple, et ça peut donner des classes d'anticancéreux spécifiques. Oui. Alors, comment découvre-t-on les médicaments ? Donc, les médicaments, on identifie un besoin en fonction des découvertes, de la recherche fondamentale, pour lutter contre une maladie, une épidémie, en réponse à une stratégie d'entreprise, parce qu'il y a aussi une stratégie d'entreprise. Et puis ça, avec ça, des équipes vont travailler et vont déposer un brevet. Alors, quatre grandes voies. Donc, je répète, l'extraction des substances naturelles. Alors, vers 90, avec l'essor de la chimie combinatoire, des anticorps monoclonaux, on a eu un moindre effet, moindre intérêt des produits naturels. Mais depuis 2005, on a un retour des produits naturels parce qu'on a 4 médicaments qui ont été mis sur le marché, de nombreuses molécules en cours d'étude. Bon, toujours la synthèse chimique ou l'hémisynthèse. Alors là, comme grande découverte, les inhibiteurs synthétiques des protéines kinases. La modélisation, c'est-à-dire qu'on va chercher Par exemple, on a la protéase du VIH, on va chercher quelle est la molécule, comment elle doit être agencée pour se mettre dans la poche active de la protéase. Et troisièmement, quatrièmement, production de médicaments par biotechnologie. Alors, on voit qu'en haut, c'est le déclin des autres méthodes, et en bas, au cours des années, on augmente les médicaments par biotechnologie. Alors, ce schéma est un peu faussé parce que ce sont des pourcentages en valeur et les produits issus des biotechnologies sont des produits très onéreux. Alors, essor considérable des anticorps monoclonaux parce que ce sont des thérapeutiques particulièrement ciblées qui peuvent utiliser différemment, hein, pas tous, dans des domaines variés. Il y en a 26 commercialisés et dont 8 sont délivrés à l'officine. On va utiliser aussi, c'est dans l'avenir, des micro-organismes génétiquement modifiés pour donner des analogues. Et aussi, les produits naturels, on va les coupler. Il y a des études qui sont faites pour les conjuguer avec les anticorps monoclonaux.
Il faut vraiment conclure.
Là, c'est mon dernière. Oui. Bon, autre voie, c'est la thérapie génique et la thérapie cellulaire. Alors, j'ai vu que, bon, ça, c'est dans l'avenir, mais il y a une molécule qui a eu l'AMM de thérapie génique là, en 2012, enfin, qui n'est pas encore utilisée chez nous. Donc, avant, on opposait chimie et biologie. Ça a toujours été une option. Maintenant, il y a une grande interaction et il y aura de plus en plus d'interactions entre la chimie et la biologie. On va aussi vers des thérapeutiques ciblées et vers une médecine plus ou moins, je dirais, individuelle. Et les recherches actuelles, on va se servir des biotechnologies, des techniques nouvelles en recherche et développement pour avoir des idées de médicaments. C'est-à-dire, on connaît le génome, on a le lien avec les médicaments, on connaît les protéines, et on va voir vers la cible thérapeutique. Cette cible thérapeutique, soit on l'a par biotechnologie, soit on fait du drug design, on construit un médicament qui va aller à ce stade-là, soit la chimie combinatoire qui permet de cribler d'autres médicaments.
Voilà. Très bien, je vous remercie. Alors, ce que je vous propose, c'est que les questions, on va les poser après les trois présentations. Donc, je demande à Madame Stéphanie Rago, voilà, qui est là, qui va nous parler, une fois qu'on a découvert le médicament, comment ce médicament est testé, dans quelles conditions et à partir de quel moment ce médicament peut être considéré comme un candidat à la commercialisation.
Merci. Qu'est-ce qu'il a ? Oui. Pourquoi ça s'affiche un diaporama ? Voilà, à partir du début. Voilà. 20 minutes ?
20 minutes aussi.
20 minutes aussi. Alors, ce n'est pas une mince affaire qu'en 20 minutes, vous décrire tous les tests que doivent subir donc, les molécules pour arriver à l'état de médicament, mais donc on va essayer. Alors, tout d'abord, le cycle de vie du médicament, je pense qu'au cours de ces journées, vous serez amené à le revoir plusieurs fois. On part donc de ce que vient de vous décrire Marie-Paul Joanneteau, donc de la recherche. On va ensuite avoir une étape qu'on appelle le développement pharmaceutique, hein, qui va s'intéresser à caractériser la molécule, à déterminer ses propriétés physico-chimiques, mais aussi qui va faire intervenir les galénistes pour la mise en forme du produit. Ce n'est pas une mince affaire, hein, que de réaliser un comprimé qui ait une cohérence suffisante. Donc, vous avez toutes ces étapes-là. Et ensuite, on en arrive aux essais sur le médicament avec une première étape, donc, qui est l'étape chez l'animal, donc tout ce qu'on appelle le développement préclinique, donc sur lequel on va revenir bien évidemment. Et puis enfin, chez l'homme, le développement clinique, où on distingue différents types de phases. Et on va parler...
Vous pouvez passer les diapos avec...
Pardon, oui. Et on va parler donc aussi des principes méthodologiques qui sont totalement nécessaires pour arriver aujourd'hui à démontrer qu'un médicament est efficace. On en arrive ensuite aux étapes administratives. Il y a l'obtention de l'AMM, mais aussi ensuite les étapes de remboursement et de fixation de prix. Donc là aussi, je pense que vous aurez l'occasion d'en entendre largement parler dans ces journées. Et ensuite, le médicament se retrouve dans les officines. Et ça n'est pas fini pour les essais, puisqu'on a les fameuses études de phase 4 qui sont réalisées, donc une fois que le produit est commercialisé. Alors, ce cycle de vie du médicament, eh bien, c'est time consuming, hein, si on veut parler anglais, c'est quelque chose qui prend énormément de temps, notamment les études cliniques, vous voyez, qui donc s'étalent entre 4 et 8 ans. Il faut trouver les patients, il faut donner effectivement, se donner le temps de pouvoir apprécier l'effet du médicament. Donc, c'est en gros 10 ans, sachant que le brevet est posé au départ du cycle et donc il reste en moyenne 7 à 10 ans à l'industriel pour bien sûr donc jouir de sa découverte. C'est aussi beaucoup de candidats et peu d'élus. Hein. Vous avez en gros pour 10 000 molécules potentiellement intéressantes, une seule qui arrive à l'état donc de médicament. Alors, démarrons tout de suite sur les premières études donc, qui sont réalisées chez l'animal avec trois disciplines essentielles à ce niveau-là. Des études de toxicité, une étape où on va caractériser l'effet du médicament, la pharmacodynamie, et puis une étape aussi où on va regarder comment le médicament, notamment, se distribue dans l'organisme, comment il est utilisé, tout ça, bien sûr, chez l'animal. Donc, en termes de toxicologie, les choses sont extrêmement bien définies. Hein. Il y a peu de parts laissées à l'improvisation. Tout est très encadré. On a donc différents grands chapitres. La toxicité, je vous dirai un mot très rapide. On a aussi une estimation de l'impact du médicament sur la fertilité des animaux. On a une estimation de son impact, de sa toxicité donc sur l'embryon, mais aussi sur les petits, c'est-à-dire vous avez des femelles gestantes qui sont traitées pendant toute la gestation, et donc ensuite donc les petits sont analysés, et de même on regarde s'il y a du passage dans le lait, et ça c'est très important parce que souvent c'est les seuls éléments dont disposent les pharmacovigilants pour répondre à une question qui se pose souvent, qui est de savoir, une femme enceinte a pris tel médicament, est-ce qu'il y a un risque ? Et bien souvent, on a uniquement ces données-là chez l'animal pour pouvoir répondre. Et tout ce qui est mutagénèse et cancérogénèse, bien sûr, est également étudié. Donc, je vous disais que j'allais revenir rapidement sur les études de toxicité. On a la toxicité aiguë où, en fait, les animaux vont recevoir une dose unique. Donc, des lots d'animaux vont recevoir différentes doses et on va déterminer quelle est la dose qui tue les animaux. Et puis, il y a aussi une administration chez l'animal hein, qui est une administration répétée pour déterminer ce qu'on appelle la toxicité subaiguë et chronique. Donc là, les animaux seront sacrifiés à terme et, bien sûr, tous les organes seront analysés, des coupes histologiques seront réalisées pour voir en fait où s'exerce la toxicité du médicament. Donc 3 mois toxicité subaiguë, 6 mois toxicité chronique, mais bien sûr la durée de ces études de toxicité chez l'animal est complètement dépendante de ce qu'on pense que sera la durée chez l'homme, hein, puisque effectivement entre un antibiotique et un antihypertenseur, eh bien ce n'est pas les mêmes durées d'administration et donc la réglementation impose que la durée des études chez l'animal, soit donc au moins celle-ci pour une administration donc définie chez l'homme en face. Donc vous voyez un traitement qui va être administré chez l'homme plus d'un mois, c'est au moins 6 mois à 9 mois d'administration réitérée chez l'animal. Alors pharmacodynamie, donc étude des propriétés thérapeutiques du produit. On essaye de cerner le mécanisme d'action là toujours chez l'animal. Donc, il y a bien sûr pour le produit bah, une certaine connaissance. Rien que par sa structure chimique, dès le départ, on peut effectivement se dire que ce produit voilà, va avoir une action spécifique sur tel ou tel organe ou fait partie d'une classe que l'on connaît déjà. Donc là, c'est tous les tests qui vont permettre de préciser le mécanisme d'action sur donc le système qui pour nous est le système sur lequel il va agir. Et puis il y a aussi des tests tous azimuts qui sont faits, c'est la pharmacodynamie générale, Donc on va aussi tester l'effet du produit, donc sur le cerveau, sur la fonction digestive, etc. Et on va même chez l'animal jusqu'à faire des études d'interaction médicamenteuse. En effet, chez l'homme, ce sera en général pas le seul produit utilisé. Un patient va recevoir plusieurs produits. Et donc, il est intéressant de voir si on n'a pas en fait des soucis par rapport à l'administration concomitante de plusieurs produits. Donc, ces interactions médicamenteuses, en fait, elles ont pour but de mettre en évidence soit une augmentation de l'activité du produit, ce qu'on appelle une potentialisation, soit au contraire une diminution de l'activité du fait qu'il soit donc administré de façon contemporaine avec un autre produit. On va aussi chez l'animal jusqu'à tester l'administration concomitante avec l'alcool. Alors, la pharmacocinétique chez l'animal, donc la pharmacocinétique, c'est tout ce qui est étude de l'absorption du produit, de sa distribution dans l'organisme, la façon dont il est métabolisé et aussi son élimination, la majorité des médicaments étant à élimination rénale. Donc, quand tout s'est bien passé chez l'animal, on va pouvoir passer chez l'homme. Alors, certaines études chez l'animal ne sont pas tout à fait terminées lorsqu'on va envisager le premier passage chez l'homme. Certains médicaments vont s'arrêter à l'étape de l'animal, notamment parce qu'ils auront montré une toxicité trop importante. Donc chez l'homme ensuite, eh bien, on va commencer par le plus souvent une administration chez l'homme sain. Alors évidemment, si les choses le permettent, c'est-à-dire évidemment, on ne va pas tester des anticancéreux chez l'homme sain. Vous connaissez tous le potentiel cancérigène des anticancéreux, donc bien sûr, c'est totalement impossible, ne serait-ce qu'éthiquement. Donc, on va détailler ces phases en suivant. Donc, je passe vite ici. La phase 2, c'est le plus souvent chez l'homme malade. On va avoir une première estimation de l'efficacité. Et enfin, la phase 3. La phase 3, c'est l'essai thérapeutique proprement dit. C'est vraiment ces essais qui vont permettre de démontrer l'efficacité des médicaments et qui vont nous permettre, pour le dossier d'AMM, de défendre en fait cette fameuse balance bénéfice-risque ou efficacité-sécurité. Les étapes administratives, et comme je vous le disais tout à l'heure, ce n'est pas fini pour les essais, puisqu'on a ces essais de phase 4 après la commercialisation du médicament. Donc on va passer, puisqu'on a peu de temps, donc la phase 1. Donc le but est de savoir quelle est la dose maximale que pourra tolérer le patient. Donc comme je vous le disais, ce sont en général des volontaires sains. C'est 20 à 50 sujets, c'est plusieurs études pour une même molécule, mais on dépasse rarement 50 sujets. Donc c'est des gens qui sont rémunérés pour ça. Évidemment, la réglementation prévoit donc une sécurité vis-à-vis de ça, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que les gens en fassent leur métier. Donc tout volontaire sain est inscrit dans un fichier national et qu'il aille n'importe où en France, eh bien, on sait s'il a déjà touché dans l'année donnée des rémunérations pour des études. Et donc là, en fait, il y a des diagrammes d'augmentation des doses. Les gens vont recevoir des doses de plus en plus fortes jusqu'à donc l'expression des premiers effets indésirables. Alors bien sûr, ça se fait dans des structures où les gens sont extrêmement encadrés, où il y a une surveillance en fait qui est extrêmement importante. Et bien sûr, entre un médicament qui est le Xème d'une classe donnée qu'on maîtrise déjà bien et un médicament très innovant qui va être donc déboucher sur une nouvelle classe, bien sûr, le niveau de risque n'est pas tout à fait le même. Alors, c'est vrai qu'il y a des risques potentiels. Je crois que c'est en 2006. Vous avez peut-être en tête, en fait, un problème qui est survenu à Londres où un médicament qui était notamment développé dans la sclérose en plaques eh bien, a conduit, en fait, 6 personnes volontaires sains en réanimation. Et donc, depuis cet épisode-là, eh bien, on est encore plus prudent, c'est-à-dire que ces volontaires sains, ils vont être testés les uns après les autres. C'est-à-dire qu'on n'inclura jamais 5-6 personnes à la fois. On fait un, puis deux. Donc, la législation s'est encore renforcée suite à cet incident. Donc, si chez le volontaire sain, et donc les choses se sont correctement passées, on peut passer à la phase 2. Où ce sont donc en général des patients, sauf si pour l'affection considérée, les volontaires sains eh bien, sont utiles parce qu'on peut évaluer l'efficacité. Un hypnotique, vous faites un électroencéphalogramme du sommeil, eh bien, ça peut être testé chez un volontaire sain. Là, on va avoir pour but de déterminer la posologie. À cette étape-là, c'est donc un certain nombre d'études pour une molécule, mais en gros, c'est 100 à 500 sujets qui seront inclus dans cette phase 2. Et donc, on va commencer à avoir des études comparatives contre placebo, mais les études comparatives contre placebo, on va surtout les trouver dans cette fameuse phase 3, l'essai thérapeutique proprement dit, où on va devoir confirmer l'efficacité, mais aussi bien sûr la tolérance, sur une population plus large. Donc ici, en fonction du domaine thérapeutique, en fonction de la molécule testée, seront inclus 500 à 20 000 sujets. Et donc là, ce sont des études sur lesquelles on va revenir concernant la méthodologie, mais qui se font donc par comparaison avec un placebo ou par comparaison avec un produit de référence. Comparaison par rapport à un placebo, ça veut dire que dans ces études, des gens vont recevoir un placebo. Ce n'est pas forcément possible. Vous avez des pathologies graves, évolutives, pour lesquelles il existe des traitements sur le marché. C'est bien sûr éthiquement impossible. Ça veut dire que le laboratoire pharmaceutique ne pourra jamais répondre à la question « Est-ce que mon produit est efficace ?» Il pourra simplement tester le fait que son produit fait mieux ou d'ailleurs moins bien que le produit de référence. Et là, ça peut être la fin, bien sûr, du candidat médicament. Et puis, donc, la phase 4, pourquoi c'est intéressant de faire des études une fois que le médicament est sur le marché? Eh bien, parce qu'on va moins sélectionner les gens. Il faut savoir que les gens qui sont dans les essais cliniques, c'est quand même des gens extrêmement sélectionnés. C'est sûrement pas monsieur, madame, tout le monde. Donc, on souhaite que ce soit des gens représentatifs des patients qui ont la pathologie, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, on va pouvoir ici conforter l'efficacité et aussi améliorer la connaissance des effets indésirables. Donc, on est sur des populations beaucoup plus larges de patients et vous avez des grandes études, notamment ce qu'on appelle des grandes études en termes de taille, de nombre de patients, 10 000, 12 000 patients, les études de morbi-mortalité en cardiovasculaire pour démontrer qu'un produit utilisé pour faire baisser le cholestérol ou qu'un antihypertenseur qui fait baisser la pression artérielle sont aussi des produits qui font ce qu'on attend en premier d'eux, c'est-à-dire qui évitent des événements cardiovasculaires, des infarctus, des AVC ou des morts cardiovasculaires, eh bien, il faut inclure à peu près 15 000 patients que l'on va suivre pendant 5 ans, 10 ans. Donc, bien sûr, ces études-là ne peuvent pas être faites avant l'AMM. On va demander à ces produits-là, pour obtenir l'AMM, juste de démontrer qu'ils font bien baisser le cholestérol pour les hypocholestérolémiants ou qu'ils normalisent bien la pression artérielle pour ce qui est des antihypertenseurs. Donc, ces études-là peuvent avoir des résultats vraiment extrêmement intéressants, même si ces études sont réalisées après commercialisation. Alors, je veux revenir sur la méthodologie, sur la façon dont on va vraiment démontrer l'efficacité, puisque l'efficacité ou la tolérance ont pu être prises à défaut. Donc, comment est-ce qu'on va apporter une preuve scientifique? Parce qu'aujourd'hui, on est vraiment dans une situation, dans une évolution où on se doit d'apporter des preuves. On n'est donc plus dans la médecine empirique où effectivement l'utilisation des médicaments reposait sur le pragmatisme et le bon sens. Mais il y a eu aussi des expériences malheureuses. Il y a eu aussi des produits utilisés à mauvais escient par le passé parce que justement, il n'y avait pas d'essais cliniques. Et on s'est beaucoup trompé. Aujourd'hui, donc, on ne peut plus le faire. Vous savez qu'aujourd'hui, on est dans ce qu'on appelle l'ère de l'evidence-based medicine. EBM, la médecine fondée sur les faits. On a aujourd'hui en fait des recommandations pour les médecins pour prendre en charge les maladies. Tout ça, ça repose sur des preuves. Donc on se doit aujourd'hui donc, de pouvoir apporter ces preuves. Et donc si effectivement il est besoin d'avoir une méthodologie stricte et pour apporter ces preuves, il faut bien avoir en tête que le raisonnement physiopathologique n'est absolument pas suffisant. C'est-à-dire que penser qu'un produit est efficace, a un bénéfice clinique en raisonnant à partir des mécanismes d'action, eh bien ça peut se révéler complètement faux. Pour preuve, je veux juste vous donner cet exemple qui nous met dans le domaine du post-infarctus, où il y a une problématique importante qui est la survenue de troubles du rythme majeurs et graves, qui sont les extrasystoles ventriculaires. On sait effectivement qu'elles augmentent le risque de mort subite de ces patients qui viennent de faire un infarctus. Et il y a eu donc une classe de médicaments qui a été utilisée parce que, en fait, ils avaient la propriété de supprimer ces extrasystoles ventriculaires. Donc on s'est dit, on donne ces médicaments, on n'a plus d'extrasystoles ventriculaires, donc on prévient des morts subites. Et donc pendant des décennies, en fait, ces médicaments ont été utilisés dans ce but. Donc voilà le résumé sur ce schéma. Donc on sait que ces produits fonctionne très bien pour éliminer ces troubles du rythme. Et donc, on sait que ces troubles du rythme sont à l'origine de mort subite. Donc, spéculation, on se dit, on utilise ces produits pour prévenir la mort subite. Donc, ça a duré des années. Et en 91, il y a un essai, dont l'acronyme est CAST, qui a été monté avec un groupe qui recevait ces produits, un groupe qui ne le recevait pas. Et ils ont compté le nombre de morts subites. Et là, aux surprises, 9% de décès dans le groupe qui recevait les antiarythmiques, 4% dans l'autre groupe, soit un risque deux fois plus important pour les gens traités par antiarythmiques. On s'était totalement trompé. Résultat, aux USA, 80 000 décès induits par cette pratique-là. Voilà donc à quoi peut conduire une spéculation à partir d'un raisonnement physiopathologique. Donc on ne peut évidemment pas se permettre ça. Et donc on a aujourd'hui une méthodologie rigoureuse pour démontrer qu'un traitement est efficace. C'est pas pour moi, ça, monsieur ?
Non.
Ah bon, j'avais deux minutes. Donc.
Je le retournerai.
D'accord. On a trois principes méthodologiques majeurs que je vais vous décrire assez vite. Alors, c'est vrai que avant les années, avant les années 50, avant les années 45, on va dire, c'est vrai que seule l'expérience de laboratoire avait une méthodologie rigoureuse. Et en termes d'essais cliniques, on n'avait pas grand-chose. Et c'est après la Seconde Guerre mondiale, les médecins ont commencé à adresser la parole aux statisticiens. Et c'est là, en fait, à partir de là, donc, qu'ont été posés des principes méthodologiques pour pouvoir avoir des preuves de l'efficacité des traitements. Donc, premier principe, si on était dans un cas de figure, comme on l'a été autrefois, avec la streptomycine et la méningite tuberculeuse, où on avait 100% de succès, c'est sûr qu'il ne serait pas utile de faire des essais cliniques. Mais en général, aujourd'hui, on a de nouveaux médicaments qui vont apporter un petit bénéfice par rapport à ce qui existe déjà. Donc, pour mettre en évidence un petit bénéfice, il faut procéder d'une façon vraiment rigoureuse. Alors, si toutefois on donne un médicament à un groupe de patients, on observe 70% de succès. C'est bien. 80, ce serait mieux. 50, est-ce que c'est encore bien ? Qu'est-ce que vous pouvez faire de ce pourcentage isolé ? Ben rien. Vous pouvez absolument rien en conclure. D'autant que, alors je mets de côté bien sûr tout ce qui est pathologie cancéreuse, mais dans beaucoup de maladies, vous avez aussi une régression spontanée de la maladie. Hein. Si on parle de l'ulcère digestif par exemple, si on parle d'une pathologie chronique comme l'hypertension artérielle, quel est le chiffre que vous m'énonceriez concernant le nombre de placebo-répondeurs ? Hypertendus, on leur donne un placebo. Quel est le pourcentage qui répondent ? 30%. D'accord ? Donc, on a aussi l'effet placebo. Donc, 70% comme ça, tout seul, ça signifie absolument rien. Donc, le premier principe, c'est qu'on va faire une comparaison entre un groupe qui reçoit le traitement à étudier et un groupe qui ne le reçoit pas, c'est-à-dire un groupe témoin qui va recevoir, en fonction de ce qui est possible de faire, en fonction aussi du niveau de développement du médicament, placebo, traitement de référence. Je vous disais tout à l'heure, placebo, on ne pourra pas forcément faire. Mais bien sûr, si on peut faire comparaison contre placebo, les laboratoires pharmaceutiques ont bien sûr aussi l'obligation de se positionner par rapport à leurs concurrents et de faire des essais contre traitement de référence. Donc le premier principe, c'est ça, c'est de faire une comparaison. Alors, un exemple pour vous dire qu'un pourcentage isolé, ça signifie rien. Il y a eu, bien loin de nous, il y a des dizaines d'années, en fait, un intérêt suggéré des complexes ferrosodiques dans le cadre des poussées ulcéreuses. Et donc, une série de cas avait été fait, c'est-à-dire un échantillon de patients. Ils avaient tous reçu ces produits. Et on a observé 50% de guérison à 3 semaines. Donc, il avait été évoqué que c'était quelque chose d'intéressant et ça a été prescrit. Après, on a eu avec les anti-H2, qui sont des produits d'aujourd'hui utilisés dans les poussées ulcéreuses, eh bien, on a fait des études bien conduites avec un groupe placebo. Et dans le groupe placebo, qu'est-ce qu'on a vu ? 50% des gens avaient une guérison spontanée à 3 semaines, c'est-à-dire que ces complexes ferrosodiques avaient strictement la même efficacité que le placebo. Donc, pour vous convaincre, si besoin était, qu'un groupe isolé, eh bien, ça démontre rien du tout. Donc, il faut prendre en compte l'évolution spontanée de la maladie, notamment. Si vous avez deux groupes, bien sûr, vous avez l'effet des deux produits, mais vous avez aussi tous les autres facteurs. Il n'y a pas de raison qui diffère dans les deux groupes. Donc, c'est de cette comparaison qu'on va pouvoir vraiment tirer une information sur l'efficacité. Alors, comparer, c'est bien. Encore faut-il comparer des choses comparables. C'est-à-dire, imaginez que le groupe qui reçoit le nouveau traitement et une maladie plus grave que celui qui reçoit le traitement de référence. Vous risquez de ne pas montrer de différence, et pour autant, il y en a une. Donc, c'est extrêmement important d'avoir deux groupes de patients qui soient semblables pour tout, y compris pour ce qu'on ne peut pas mesurer. Et ça, il y a une façon de faire qui est tout simplement de laisser le hasard décider si le patient, M. Dupont, recevra le traitement A ou le traitement B. Et c'est pour ça qu'on est amené à faire des études qu'on appelle des études randomisées, c'est-à-dire avec un tirage au sort. Est-ce que ça vous choque ? Pour qui est familier de l'essai thérapeutique, effectivement, ce n'est pas choquant parce que si on fait l'essai, c'est qu'on n'a pas la réponse. Et c'est qu'a priori, si l'essai est autorisé, il n'y a pas une perte de chance, même pour le groupe qui a le placebo. Donc, essai idéal, essai contrôlé et randomisé. Alors, je vais passer parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Voilà. Ensuite, il faut maintenir la comparabilité qui nous est donnée par le tirage au sort. Et là, ça veut dire qu'il faut que les gens soient évalués de façon objective. Or, le médecin, s'il connaît le traitement, il peut être considérablement influencé, surtout si le critère jugement n'est pas très objectif. Et le patient aussi, hein, la connaissance du traitement peut tout à fait influencer la maladie, influencer la survenue d'effets indésirables, etc. Donc, je pense que vous le savez, mais dès qu'on le peut, on conduit des essais qui sont réalisés en aveugle. Donc, double aveugle est le terme utilisé pour dénommer les essais où ni le patient, ni ce qu'on appelle dans le jargon des essais cliniques l'investigateur, c'est-à-dire le médecin qui participe à la recherche, donc où ni l'un ni l'autre ne connaissent le groupe de traitement. Et ça, ça permet effectivement que le médecin puisse mesurer le critère de jugement, le critère d'efficacité, sans connaître le produit, ne soit pas influencé. Et ça permet aussi qu'il n'arrête pas l'étude chez certains patients dont il sait qu'ils sont a priori dans le groupe le moins efficace, en tout cas pour lui. Donc, l'essai idéal est un essai contrôlé, randomisé et en double aveugle. Alors, à côté de ça, bien sûr, juste une petite précision pour vous dire, le double aveugle, eh bien, si on compare un médicament injectable contre un médicament par voie orale, malgré tout, on peut le faire. On va créer des placebos de chacun des deux. Et finalement, chaque groupe recevra la même chose. Donc, ce n'est pas parce que vous comparez deux produits avec une galénique différente que le double aveugle n'est pas réalisable. Ensuite, bien sûr, je vais passer très vite, mais il va falloir définir quel est le critère d'efficacité qui sera utilisé dans l'étude. Quels aussi sont les patients qui vont être inclus dans cette étude, en ayant bien à l'esprit que les résultats de l'étude ne pourront être extrapolés qu'aux patients qui sont similaires aux patients de l'étude, c'est-à-dire si on étudie des formes légères à modérées, il est bien sûr hors de question d'extrapoler les résultats aux formes légères à sévères. Juste un petit mot par rapport à la réglementation pour vous dire que c'est extrêmement, extrêmement encadré. Il est bien sûr hors de question de faire quoi que ce soit à un patient dans le cadre d'une étude sans avoir donc recueilli son consentement. Et donc, on est bien sûr dans quelque chose d'extrêmement carré, hein, donc avec un respect de la personne. Mais vous avez aussi des textes permettant d'avoir une qualité des recherches optimale. Tout essai réalisé doit notamment recevoir l'avis d'un comité qui est un comité donc régional, le CPP, le comité de protection des personnes. Et puis, j'ai parlé beaucoup médicaments et industrie pharmaceutique. Sachez qu'il existe aussi des essais qui sont conduits par donc les structures publiques, comme les CHU. Hein, c'est ce qu'on appelle la promotion institutionnelle. Donc, les médecins chercheurs ont aussi des fois, en fait, une idée pour tester un médicament dans une indication qui n'est pas du tout la sienne. Le médicament existe sur le marché, mais ce médicament peut être par ailleurs potentiellement très intéressant dans une autre affection. Le laboratoire n'est pas très intéressé, ça ne va pas concerner beaucoup de patients. Son médicament est depuis longtemps sur le marché. Hein, ils ne veulent pas forcément donc investir. Et donc, on a aussi ce genre d'études sur le médicament qui peut être donc à départ institutionnel. Voilà, et enfin, parce que dans le titre, il y avait aussi où sont réalisés les essais. Donc, en fait, les essais sont réalisés, bien sûr, par des médecins. Alors, vous pouvez avoir au niveau des études de phase 4, votre généraliste hein, qui vous propose un essai clinique. Donc, ça veut dire qu'il a été effectivement sollicité par le laboratoire pour faire cet essai. Vous pouvez avoir au niveau d'un service hospitalier aussi un médecin qui vous propose de participer à un protocole de recherche. Mais au sein des structures hospitalières, eh bien, on a des centres spécifiques pour ça. Donc, des centres d'investigation clinique qui sont des centres labellisés par l'INSERM où, en fait, eh bien, il y a à disposition des médecins de l'établissement, des structures avec des lits pour les patients, avec des infirmières qualifiées pour faire de la recherche clinique, des médecins qui sont présents et qui sont très impliqués également dans la recherche clinique. Et donc, dans votre CHU, eh bien, vous avez une telle structure donc, avec quatre axes forts, la leucémie myéloïde chronique, le diabète, les neurosciences, troubles obsessionnels compulsifs, Alzheimer, Parkinson, et puis une équipe aussi de méthodologie. Voilà, je vous remercie.
Merci beaucoup.
D'accord. Je m'absente deux minutes pour mon parcmètre. Il n'y a pas de souci.
Très bien. Je vous remercie beaucoup, professeur Stéphanie Rago. Donc maintenant, je vais donner la parole. On a exactement 13 minutes de retard et c'est insupportable. Donc, mais bon, on va essayer de faire en sorte de prendre un petit peu plus de temps pour conclure cet atelier. Donc, Madame Marie-Christine Perrault-Pochat, vous êtes professeure et chef de service en pharmacologie clinique et vigilance au CHU de Poitiers. Vous allez nous parler essentiellement de la partie administrative, c'est-à-dire quand c'est la fin de la chaîne pour qu'un médicament puisse... Enfin, lorsque un médicament est... sur le point d'être mis et marketé, mis dans le commerce. Donc ce sont les modalités d'enregistrement du médicament et comment on obtient ces fameuses autorisations de mise sur le marché.
Oui, le fameux sésame.
Voilà, le fameux sésame. Et donc vous avez exactement 20 minutes. Parfait, merci.
Oui, bonjour à tous. Alors, d'abord, je précise que je n'ai ni lien ni conflit d'intérêt avec l'industrie pharmaceutique. Ça, je suis obligée de le faire parce qu'une de mes fonctions hospitalières, je suis responsable de tout ce qui est pharmacovigilance pour la région Poitou-Charentes. Donc, je ne dois pas avoir de conflit d'intérêt. Alors, ceci vous a déjà été présenté par Madame Rago, donc je vais être très, très rapide. C'est simplement pour vous montrer à quel endroit nous nous situons quand nous souhaitons obtenir une autorisation de mise sur le marché. Vous voyez que c'est 10 à 15 ans déjà après la découverte du candidat médicament, puisqu'on vous a dit aussi qu'on part de 100 000 molécules à peu près pour avoir un médicament. Donc il y a énormément de déchets, beaucoup de candidats malheureux. Donc les procédures administratives sont longues, sont coûteuses aussi pour l'industrie pharmaceutique et la nouvelle législation européenne vise à réduire, si vous voulez, le temps d'obtention d'une autorisation de mise sur le marché puisque le plus tôt ils vont commercialiser le produit, eh bien, le plus tôt l'industrie pharmaceutique pourra faire des bénéfices. Donc, développement préclinique, essais cliniques, AMM, quels sont les critères d'octroi d'une autorisation de mise sur le marché? Eh bien, il y a trois critères, qualité, efficacité et sécurité. Et ceci doit nous permettre de déterminer si le bénéfice-risque du médicament est favorable. Alors, quand on reçoit un dossier d'AMM, c'est déjà très volumineux. Il faut chercher ce dont on a besoin pour déterminer si le médicament est efficace et présente une bonne tolérance quand il est administré. Alors, la qualité. On vous retourne au niveau de l'origine et de la matière et de la nature des matières premières. Alors, origine des matières premières. On entend beaucoup de choses. Il y a une dizaine de façonniers au niveau mondial. Les façonniers, ce sont les personnes qui fournissent la matière première. Donc, ce sont des structures qui sont contrôlées et quand on entend dire que c'est tout et n'importe quoi, je ne suis pas forcément d'accord avec ce qui est dit, principalement par les journalistes à ce sujet. Nous avons eu des soucis, mais il faut quand même reconnaître que l'agence du médicament, qu'elle s'appelle comme autrefois l'APSAPS ou maintenant la NSM, a des inspecteurs qui sont diligentés pour faire des contrôles de qualité. nous avons été très efficaces, et je salue les autorités françaises, quand on a eu les problèmes avec les héparines. Les héparines, tout à l'heure, Madame Joento vous a montré que l'origine était animale. Eh bien, en France, toutes les héparines, il y a un contrôle de qualité qui est très important, qui a été fait et conduit, ce qui nous a permis d'éviter quand même des décès qui sont survenus malheureusement aux États-Unis, puisque les États-Unis avaient choisi de s'approvisionner auprès de la Chine et de leurs cochons chinois. Nous, ce sont des cochons français, dans le Finistère, très sincèrement, qui sont utilisés. Bon, bah écoutez, on fait ce qu'on peut, mais c'est important, c'est la traçabilité et on va contrôler ça. Ça vous fait sourire, mais ça a l'air de rien, c'est important. On surveille aussi les procédés de synthèse et de fabrication. On regarde les impuretés. Alors, petit paragraphe sur les impuretés. Tout à l'heure, on vous a parlé des problèmes, des résidus qui sont dans l'eau. Nous avons des problèmes avec les impuretés et ce que l'on appelle les résidus virtuels. C'est-à-dire que pour extraire un médicament, on est obligé d'utiliser des solvants. Et ces solvants, qu'est-ce qu'ils deviennent? Est-ce qu'ils s'en vont réellement? Ou est-ce qu'ils restent dans le médicament? Là, moi, je ne suis pas capable de répondre, mais ce sont des questions que nous pouvons poser à l'industriel et qui peut être amené à argumenter ses réponses. La stérilité, la stabilité d'un produit fini et la sécurité virale des produits biologiques. Nous avons malheureusement eu des exemples assez tristes avec les patients hémophiles à qui malheureusement nous avons transmis le sida. Donc cette sécurité virale est très, très stricte, très contrôlée. Et là encore, la France se distingue par rapport à d'autres pays européens pour avoir des produits qui sont mis sur le marché de très haute qualité et vraiment très, très vérifiés. Alors, l'efficacité. Madame Rago vous a expliqué que c'était basé sur les résultats des essais cliniques et effectivement une évaluation du rapport bénéfice-risque. Alors, qu'est-ce qu'on regarde? C'est vrai qu'on va regarder les phases 1 chez les volontaires sains pour voir si la dose qui a été déterminée va vraiment être la dose active après quand on passe dans la population de patients. On regarde dans les phases 2. Ce qui est intéressant, c'est là encore le ranging des doses, la progression, si vous voulez, des doses que l'on va utiliser. Et en phase 3, quand on est sur 4-5 000 patients, l'efficacité, effectivement, du médicament. Et en phase 3, on a déjà une notion de ce qui va passer au niveau des risques éventuels liés à l'utilisation de ce produit, parce que sur 4-5 000 patients, on peut mettre en évidence des effets indésirables. Alors, on ne mettra pas tout en évidence, mais on en mettra une partie. La sécurité, ça aussi, ça vous a été présenté par Madame Rago, génotoxicité, carcinogénèse, reprotoxicité, où là, nous sommes très, très attentifs à ce qui se passe sur les fonctions reproductrices, et on suit effectivement à 2-3 mois, voire plus, les descendants de femelles qui ont été traitées, ou de mâles, de rats mâles aussi qui ont été traités, parce qu'on se rend compte d'une chose, c'est que nous avons très peu de données sur ce qui se passe sur la spermatogénèse. Et un patient qui est traité avec un anticorps monoclonal, eh bien, s'il y a un désir de grossesse dans un couple, il n'y a pas que la femme là, qui doit être prise en compte dans, si vous voulez, le conseil que l'on va donner sur la poursuite et comment cette grossesse doit être menée et prise en charge. Et puis, les données cliniques avec les effets indésirables. Alors, les effets indésirables dans les études cliniques, c'est assez simple. Parce que tout à l'heure, j'entendais un monsieur qui disait « Oui, mais mon médecin, il ne me pose pas de questions. » Là, quand on est dans un essai clinique, on a des formats, des feuilles qui sont formatées. Parce que maintenant, on parle uniquement en template, comme le veut le terme anglais. C'est-à-dire que tout est formaté et on vous posera des questions systématiquement sur ce que vous avez ressenti ou si vous avez eu ou non des effets indésirables. Alors, pour répondre aussi à la question du monsieur tout à l'heure, je dois vous dire que si votre médecin traitant ne vous pose pas de questions, monsieur, généralement il le fait quand même au cours de son entretien, enfin au cours de l'examen clinique qu'il fait, puisque on a l'habitude de vous poser des questions en même temps qu'on fait un examen clinique. on arrive à peu près à le faire, on n'est pas trop mauvais à ce jeu-là. Et surtout, vous avez depuis 2004, et ça a été renforcé très récemment, fin 2012, la possibilité de déclarer vous-même vos effets indésirables auprès d'un centre régional de pharmacovigilance. Alors, pourquoi on fait tout ça? C'est pour ne plus jamais être confronté à ce drame, le drame du ou de la thalidomide, là les chimistes me corrigeront, je ne sais jamais ce que je dois dire, avec des enfants phocolèmes qui sont nés. Là, ce sont des enfants, je dirais, qui ont encore la chance d'avoir des jambes, mais pour certains, les quatre membres étaient atteints. Alors pourquoi? C'est simplement qu'on s'est trompé et c'est pour ça que les études de toxicité, si vous voulez, moi j'insiste un peu lourdement dessus, on n'avait fait que 2 études animales, alors que maintenant la loi nous oblige à faire 3 études animales, ce qui fait qu'on va avoir des souris, on va avoir des lagomorphes type lapin et on va avoir aussi des chiens, ce qui nous permet, si vous voulez, d'avoir une meilleure appréhension du risque sur la reprotoxicité. Donc, à chaque fois, je dirais, que nous avons une crise, à chaque fois, nous sommes obligés de progresser et de mettre en place, si vous voulez, des stratégies pour limiter les drames sanitaires que nous vivons. Alors, nous avons 4 types d'AMM. Les AMM nationales et puis toutes les AMM communautaires. Pour parler très simplement, je vous dirais que les AMM nationales, d'ici quelques années, il n'y en aura plus ou elles seront vraiment extrêmement rares. Et nous allons tous être obligés de suivre les procédures européennes. Les procédures européennes, vous en avez 3, centralisées, reconnaissance mutuelle ou décentralisées. Je vous expliquerai après comment ça se passe. Nationales. Comment est-ce que ça se passe en pratique? Je suis un industriel, je vais déposer mon dossier d'AMM auprès de l'ANSM. Là, il va y avoir une analyse par des équipes d'évaluation, qui sont des équipes internes à l'ANSM, sur la qualité, l'efficacité et la sécurité. Généralement, pour avoir une bonne expertise, les experts internes, les évaluateurs internes de l'agence font appel à des experts dits externes. Et c'est vrai que nous confrontons nos opinions et nos points de vue sur ces dossiers. On rédige un rapport, bien évidemment, et on soumet ce dossier à l'avis de la commission bénéfice-risque de l'ANSM, qui est composée de membres de l'ANSM, mais aussi d'experts externes. Et la décision finale appartient au directeur général de l'ANSM, et vous allez avoir une autorisation de mise sur le marché, mais uniquement sur le territoire français. Alors, ça concerne essentiellement les médicaments pour lesquels on va demander, qui sont déjà commercialisés en France et pour lesquels on va demander une modification au niveau des effets indésirables, au niveau des mises en garde, et éventuellement une nouvelle indication. Et puis surtout, ça concerne 90%, ces AMM nationales représentent 90% des AMM pour les médicaments génériques. Donc, vous voyez, c'est une partie importante, mais ce n'est pas la partie principale des AMM dorénavant. Européenne, où ça se passe? Alors là, il faut faire un petit peu de géographie. Vous avez l'Agence européenne du médicament, que j'ai abrégé sous EMA, qui est à Londres, dans l'ancien quartier des docks, au bord de la Tamise. Vous avez, au sein de cette agence européenne, là, le comité qui nous intéresse, que l'on appelle le CHMP, qui est en fait un comité scientifique pour les médicaments à usage humain et qui est le comité qui va donner son avis sur certaines AMM communautaires. Cette commission est composée des 27 États membres, plus 5 États qui sont là un peu pour observer. Vous avez la Norvège, vous avez le Liechtenstein, je ne me souviens plus des 3 autres, pardonnez-moi. Mais donc, vous avez 27 États membres plus 5 autres qui sont là en tant qu'observateurs. Et puis, vous avez une commission qui, elle, se trouve à Bruxelles, qui est importante. C'est la Commission européenne. Et nous avons de la chance. Maintenant, le médicament ne fait plus partie de la commission, de la sous-commission industrie. Mais nous avons quand même réussi à ce que le médicament soit au niveau de la nébuleuse européenne, soit pris en charge parce qu'il correspond à la santé, la Commission européenne santé, si vous voulez. Direction, vous me corrigerez tout à l'heure, mais ce que je veux dire, c'est que le médicament, c'est certes un produit industriel, mais là, au niveau de la réglementation, nous avons quand même réussi à ce que ça passe au niveau de la direction santé. Alors, les AMM centralisées, c'est obligatoire pour un certain nombre de produits. Tous les produits qui vous ont été présentés par Madame Schwento, qui sont issus des biotechnologies, c'est-à-dire tous les nouveaux anticorps monoclonaux, vont obligatoirement avoir une AMM centralisée. Et puis, des substances dans des domaines très particuliers, le cancer, les maladies neurodégénératives, le sida et le diabète. Alors, pourquoi ? Ben, diabète, c'est que ça représente une population qui est vraiment très, très importante et en croissance exponentielle. Maladies neurodégénératives, on utilise beaucoup d'anticorps monoclonaux. Et puis, les médicaments orphelins. C'est optionnel pour les nouvelles substances, pour des innovations thérapeutiques. Et ça peut être aussi intéressant quand il y a un intérêt des patients de la communauté européenne. Parce que il faut rappeler quelque chose qui n'est peut-être pas évident, c'est que nous sommes assez inégaux et nous sommes considérés en Europe comme des caucasiens, mais certains médicaments sont développés, puisque les médicaments, maintenant c'est un développement mondial, sont développés au Japon, donc, ou en Chine, ou dans les pays d'Asie, et ils ont un métabolisme qui est différent du nôtre. Donc là, on est obligé de redemander des études particulières pour les populations européennes dites caucasiennes. Alors, qu'est-ce que fait le CHMP quand l'industriel arrive pour demander une autorisation de mise sur le marché centralisée ? Eh bien, ce CHMP va choisir deux personnes, un pays rapporteur et un pays co-rapporteur, qui vont avec un calendrier qui est très codifié, c'est-à-dire qu'en 3 mois, on doit donner notre réponse. Eh bien, selon un calendrier très codifié, ils vont rédiger un rapport d'évaluation. Et ensuite, va commencer un échange entre le demandeur de l'AMM et le CHMP, un jeu de questions-réponses. S'il y a vraiment un gros désaccord, l'industriel peut venir exposer devant le CHMP. Et ensuite, ce qui est important, et c'est là où malheureusement la France actuellement pêche, c'est que le pays rapporteur va avoir la responsabilité du suivi du médicament. Et vous verrez qu'un suivi de médicament, c'est très, très important. Et actuellement, la France est un peu à la traîne par rapport à ces dossiers. Nous sommes dépassés par les Suédois, qui sont hyper bien organisés pour prendre en charge ce type de dossier, les Danois, je dirais les pays de l'Europe du Nord. Ils ont aussi un avantage non négligeable, ils parlent anglais couramment et tous les rapports qu'on nous demande de rédiger doivent être dans la langue de Shakespeare. Donc même si on se débrouille, il y a des fois c'est un peu lourd. Alors, centraliser, comment ça se passe ? En fait, centraliser le produit, je suis toujours dans le centralisé. Si on donne une AMM centralisée, il y a un vote et c'est un vote à la majorité. Donc l'AMM est donnée et ça va être dans tous les pays de l'Union européenne que ce médicament va être, si vous voulez, commercialisé. C'est une obligation, vous ne pouvez pas dire non. Alors là encore, la France est championne pour freiner la mise sur le marché de ces médicaments qui ont une AMM spécialisée, puisque nous, on le fait repasser devant la commission bénéfice-risque française. Et après, il y a le jeu du comité économique des produits de santé, du ministère de la Santé, mais aussi de Bercy. Donc ça peut prendre un petit peu de temps. Voilà, si le laboratoire n'est pas d'accord, on va devant la Commission européenne et c'est la Commission européenne qui va décider. Alors, reconnaissance mutuelle, c'est un petit peu plus simple. Je suis le laboratoire, je vais déposer mon AMM auprès d'un pays État membre. Cet État membre va faire, si vous voulez, un travail d'évaluation et si l'AMM est octroyée par cet État membre, eh bien, la firme peut aller commercialiser son médicament dans les pays de l'Union européenne qu'elle aura choisi. Ce n'est pas obligatoirement tous les pays de l'Union européenne. Là, vous avez la possibilité de choisir. Dernière chose, c'est l'AMM décentralisée. Alors là, je suis la firme pharmaceutique. Je vais déposer mon dossier d'AMM dans les 27 États membres. Je vais demander juste à un État membre de me faire l'expertise. Si l'expertise est favorable et que j'obtiens donc mon AMM, à ce moment-là, dans les 27 États membres, je vais avoir le droit de commercialiser mon produit. Donc vous voyez, il y a trois types d'AMM et l'intérêt de cette AMM décentralisée, c'est que vous allez avoir une procédure qui va être rapide, moins contraignante que la reconnaissance mutuelle et aussi une alternative intéressante quand votre produit ne rentre pas dans la liste de ceux pour lesquels l'AMM centralisée est obligatoire. Eh bien, quand votre produit n'appartient pas à cette liste, c'est une alternative intéressante pour mettre votre médicament dans les 27 États membres. Donc, on accorde une AMM si le rapport bénéfice-risque est estimé favorable. Là, quand on peut, évidemment, on regarde les comparaisons versus placebo pour avoir une amplitude de l'effet du traitement. On compare aussi, on regarde toutes les comparaisons versus traitement de référence. Bon, quand le bénéfice est supérieur au produit de référence, eh bien à ce moment-là, on donne une AMM sans trop de difficultés. Quand le bénéfice est similaire ou inférieur, là, on se pose des questions. C'est possible qu'on donne l'AMM si, par exemple, si vous avez un bénéfice qui est similaire et moins d'effets indésirables, à ce moment-là, on sera assez favorable à donner l'AMM. Si le bénéfice est inférieur, je dois vous avouer que s'il y a quelque temps, on discutait, maintenant on ne discute plus. Si le bénéfice est inférieur, on ne donnera pas l'AMM. Les durées des AMM, c'est important. C'est une durée de 5 ans qui est renouvelée sans limitation, sauf si vous avez eu un gros souci au niveau du risque. Et à ce moment-là, on fera une réévaluation du bénéfice-risque et on donnera, on prolongera ou non l'AMM. Ce que l'on peut faire aussi, c'est accorder une AMM, mais faire un plan de surveillance post-AMM. Et maintenant, c'est obligatoire. On a les plans de pharmacovigilance pour détecter les effets indésirables induits par les médicaments. Parce que je vous ai dit, on arrive à en détecter chez 5000 patients, mais celui qui survient, quand on en a 1 sur 10 000, eh bien, c'est uniquement quand on va passer en population générale qu'on va le détecter. Donc on a ces plans de pharmacovigilance et systématiquement maintenant, on met des plans de gestion de risque aussi en place. Et dans ces plans de gestion de risque, si vous voulez, on va chercher à minimiser à chaque fois les risques qui sont inhérents à la prise du médicament. Donc on fait des études pour voir si le médicament est prescrit hors AMM ou non. Ça a l'air de rien, mais en France, là encore, nous sommes les champions du hors AMM. On va faire des registres. Ces registres, c'est hyper important pour les suivis des femmes enceintes. C'est vrai qu'on a du mal, nous, à répondre. Alors, il y a un antiépileptique qui a été mis sur le marché il y a quelques années. On a fait un registre parce que prescrire des antiépileptiques chez la femme enceinte, c'est compliqué. La majorité des anciens sont tératogènes, mais on sait aussi que l'épilepsie, c'est tératogène, enfin pas forcément tératogène, l'épilepsie en elle-même si vous voulez, mais il y a des risques très importants liés au non-traitement de l'épilepsie chez une femme enceinte. Donc il faut qu'on trouve à chaque fois un équilibre, le plus favorable soit-il à la mère et au fœtus. Donc des registres, par exemple pour les femmes enceintes, pour la grossesse, on fait des informations aux prescripteurs, aux patients, et si vous voulez, ce plan de gestion de risque, il est établi en fonction de ce que l'on a identifié au cours du développement du médicament. Et on essaie aussi de penser à tout ce qui peut se passer, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, deux minutes, c'est bon, l'AMM, elle est refusée. Elle est refusée quand, si vous voulez, on estime que les risques sont vraiment trop importants par rapport aux bénéfices. Ça nous arrive hein, de refuser des AMM par rapport à la sécurité où on estime que l'efficacité ne sera pas favorable. Je vous prends un exemple, c'était des dispositifs qui devaient libérer de la morphine. Or, ces dispositifs n'étaient absolument pas sûrs. Là, on a un petit souci aussi encore avec un produit antalgique qui est utilisé par voie nasale. Or, dans les flacons, pour que ça marche, il y a un résidu non négligeable, une quantité non négligeable du produit qui demeure. Donc, ça peut entraîner des détournements, favoriser aussi la dépendance à ces produits. Quand la qualité n'est pas déclarée, on refuse l'AMM. Et quand l'effet thérapeutique qui est annoncé fait défaut, à ce moment-là, on va l'arrêter. Suspension au retrait, je vous en parle parce que vous avez eu des exemples récents avec la suspension de Diane, contraceptif oral. C'est une décision qui peut être prise par le directeur général de l'ANSM s'il estime que le rapport donc est défavorable. Là encore, on peut retirer une AMM quand l'effet thérapeutique fait défaut ou à nouveau quand la composition n'est pas conforme à ce que l'on attend. Voilà, je vous remercie. Je crois que j'ai brossé le tableau.
Très bien, en fait, vous allez rester avec moi, vous allez vous installer à côté, puis je vais appeler les autres conférenciers à me rejoindre. Non ? Il y en a assez. Alors, merci en tous les cas pour ces trois conférences, trois exposés très intéressants et en fait qui décrivent, comme je l'ai dit tout à fait au départ, cette chaîne de valeur qui va depuis la recherche, la découverte d'un médicament jusqu'à sa commercialisation et son histoire après la commercialisation. Donc il est écrit dans le petit programme que j'ai de 11h15 à 11h30 pour faire une synthèse. J'ai pris un certain nombre de notes. Donc je vais le faire assez rapidement. Donc je vous rappelle en fait qu'on nous a dit qu'un médicament c'était en fait un principe actif et autre chose qu'on a appelé des excipients pour formuler ce principe actif, c'est le travail des galénistes, et ensuite qu'il a une forme galénique, c'est-à-dire ça peut être soit un solide, soit une solution, le solide peut être sous forme de pilule, de poudre, etc. Et la solution peut être sous forme soit d'une solution gel, soit une solution. Et que ce médicament était administré par un certain nombre de voies qui sont la voie orale, parentérale, c'est-à-dire par injection intraveineuse, ou aussi par des administrations topiques, c'est-à-dire par la peau. Qu'enfin, ce médicament, ça pouvait venir du rène végétal, du rène minéral, ça peut être un produit extrait de composés biologiques animaux, comme par exemple ce qu'on appelle des médicaments qui sont dérivés du sang. Ou alors ce produit peut être synthétisé soit via des processus chimiques, soit via des processus utilisant les technologies biologiques, ou ce qu'on appelle la biotechnologie. Que ces principes actifs, dont on a parlé tout à fait au début, ils avaient une dénomination chimique, que cette dénomination chimique était très compliquée à retenir et que la DCI a décidé de donner un nom plus facilement, qui se retient plus rapidement, et que tous les pays se mettent d'accord pour utiliser ce nom, pour désigner ce principe actif, et qu'ensuite il y avait une ribambelle de noms commerciaux pour un même principe actif, dépendant du pays, des sociétés, selon que le produit soit tombé dans le domaine public. On n'a pas beaucoup parlé de la propriété intellectuelle des médicaments, mais on en parlera plus tard. Et que, en fait, un principe actif, on pouvait soit le présenter, je ne sais pas si je peux dire ça, allopathiquement, non, ça ne se dit pas ça. Allopathiquement. Disons, voilà, il y a ce qu'on appelle la différence qu'il y avait entre l'allopathie et l'homéopathie, et que ces médicaments, il y en avait un certain nombre. Il y avait ce qu'on appelait les médicaments par présentation, les médicaments par fonction et les médicaments par composition. Vous vous rappelez, la composition, ce sont les médicaments qui sont de liste 1, liste 2, et ce qu'on appelle les stupéfiants. Ensuite, Marie-Paul Jointeau nous a entretenu sur comment découvre-t-on un médicament. Un certain nombre d'exemples très intéressants ont été donnés, des exemples de médicaments qu'on connaît tous. Et ce qui était intéressant, c'était tout à fait au départ de dire qu'en fait, la découverte du médicament et le travail d'un chimiste, d'un pharmacien, etc., était basé sur un patrimoine historique. Et que ce patrimoine historique, bah, il était très, très vieux depuis la préhistoire où, pour nous soigner, on utilisait l'eau, la terre et la salive. On est arrivé aux biotechnologies et à la thérapie cellulaire et génique en 1990. Donc tout un chemin qui a été fait par l'effort d'un certain nombre de curieux qui ont été d'abord des chamans ou voilà et puis ensuite des comment on appelle les gens des herboristes hein, qui se sont aussi beaucoup intéressés à cela et aussi tout ce qui était lié à la médecine traditionnelle. Les voies pour découvrir un médicament, ces médicaments peuvent être soit extraits et dans ces cas-là on se rapporte très souvent au rapport ou en tous les cas à ce qui s'est dit traditionnellement, c'est-à-dire telle plante va soigner telle, ou en tous les cas est reconnue ou admise comme soignant telle pathologie. Donc il y a un certain nombre de travaux qui sont faits concernant l'extraction, d'autres travaux qui concernent la synthèse, parce que effectivement la première source quand on parle de médicaments extraits végétal, bah, il faut avoir le végétal et quand on n'a pas le végétal, c'est un petit peu compliqué, donc un certain nombre de chimistes se sont, ont fait un effort assez important dans le cadre de la synthèse chimique. Et ensuite, il y a eu la synthèse utilisant des biotechnologies. On a parlé d'un certain nombre de choses qui proviennent de l'homme, mais il y a des médicaments qui sont produits aujourd'hui par des bactéries qui ont été modifiées génétiquement pour produire tel ou tel produit. J'ai retenu une chose qui était assez intéressante, c'était la source de ces principes actifs, et on a parlé de 0,01% de sources marines. Ça veut dire qu'en fait, dans le cadre de nos recherches, ou en tous les cas des travaux qui sont réalisés dans les laboratoires qui s'intéressent à la production de principes actifs dédiés au domaine de la santé, les sources marines sont encore un domaine extrêmement ouvert, j'allais dire. Bon, les sources végétales, c'est vrai que c'est ouvert, mais en fait, ce qui peut provenir du monde marin l'est encore plus. J'ai retenu aussi un chiffre, c'est qu'aujourd'hui, en 2008, il y a 225 molécules qui sont en cours d'évaluation auprès des instances administratives d'évaluation, hein, auprès de l'Agence nationale de la sécurité pour le médicament, ou en évaluation préclinique. Donc voilà. Vous avez retenu en fait les exemples du Taxol, Taxotér, Héparine, insuline, etc. On n'a pas beaucoup parlé en fait de ce qu'on appelle la pharmacomodulation, qui est une technique aujourd'hui, et je pense que tu pourras en dire un mot, Fabien. La pharmacomodulation, en fait, il s'agit de prendre une structure moléculaire initiale, et puis ensuite, on va modifier cette structure moléculaire chimiquement, et on va voir quel est l'effet sur un certain nombre de, sur un certain nombre de cibles thérapeutiques. On a parler, Marie-Paul a ensuite parlé des technologies qui permettent d'identifier des cibles impliquées, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les méthodologies pour aller trouver un principe actif pour soigner une pathologie, la progression technologique fait aujourd'hui qu'on est capable d'aller creuser au point le plus intime de la pathologie, c'est-à-dire qu'il y a des molécules, des protéines qui peuvent être considérées, alors je vais essayer de parler très, très simplement, peuvent être considérées comme des protéines qui sont à l'origine d'une maladie, enfin, ou en tous les cas, la modification d'une protéine peut être à l'origine d'une maladie ou d'un gène, et si on arrive à détecter cette protéine, on peut agir sur cette protéine avec un médicament et donc on considère cette protéine comme une cible thérapeutique. Je ne sais pas si je l'ai bien dit, si je ne l'ai pas dit, les grands professionnels pourront me corriger là-dessus. Et donc, alors ensuite, nous sommes allés voir comment et où sont testés les médicaments. C'est Madame Stéphanie Rago qui nous a parlé un petit peu de tout ça. On sait un chiffre très important, il y a
une molécule sur 10 000 qui sont testées qui arrive à passer toute cette cascade de tests, etc. Les recherches démarrent bien entendu par les tests in vitro, par une mise au point galénique, et ensuite on passe aux tests précliniques sur les animaux, et ensuite on passe aux tests cliniques. Et après on dépose le dossier administratif pour obtenir son AMM, son autorisation de mise sur le marché. Mais ce n'est pas fini, le médicament reste toujours sous surveillance et c'est ce qu'on appelle, pendant son utilisation, et c'est ce qu'on appelle la pharmacovigilance. Il faut à peu près 10 à 15 ans. Quand on dit, moi je pense qu'aujourd'hui on est plutôt vers 15 ans, hein, entre la découverte d'une molécule et sa mise sur le marché. 10 ans, ça n'existe pratiquement plus. C'est en tous les cas mon expérience personnelle. On est plutôt vers 15 ans avant de sortir une molécule. Et ensuite, il y a les tests, enfin, on a parlé des tests précliniques qui sont des tests extrêmement importants parce que, en fait, c'est la première fois qu'on va administrer à quelque chose de vivant une molécule, un principe actif, et on va étudier sur cet objet vivant, hein, un animal, et on va étudier la pharmacodynamie, l'interaction médicamenteuse, la pharmacocinétique. La pharmacocinétique, c'est juste quand on administre un médicament, combien de temps ce médicament reste dans le sang, comment il est éliminé, quels sont ses métabolites, c'est-à-dire comment il se transforme lorsqu'il est transporté par les flux corporels. Et ensuite, on passe donc à la phase 4, donc qui est après la phase 1, 2 et 3, pardon, à la phase clinique. La phase clinique, c'est d'abord des essais sur les volontaires sains. Ensuite, la phase 2, c'est les essais sur les malades. Et ensuite, la phase 3, c'est vraiment d'évaluer l'efficacité une fois que nous avons un petit peu évalué la dose à prescrire en phase 2. Et ensuite, la phase 4, c'est-à-dire la phase post-AMM, qui consiste à conforter ou en tous les cas à continuer à travailler sur l'efficacité et les effets secondaires. Il y a un certain nombre de méthodologies. Je vais passer sur toute cette partie qui est un petit peu compliquée, en fait, notamment quand on parle d'evidence-based medicine. On est un petit peu sur des choses qui sont un petit peu compliquées, mais en tous les cas, il y a nécessité d'une méthodologie. Et c'est la méthodologie qui est utilisée dans le cadre des études cliniques est basée sur trois points très importants. Un, d'abord, il faut absolument comparer. C'est ce qu'on appelle le groupe test et le groupe placebo. Il faut absolument comparer. Le deuxième principe, c'est qu'il faut qu'on compare entre deux groupes qui se ressemblent et qui sont semblables, et d'où ce que vous avez, la proposition, la manière de le faire randomisée, etc. Et puis ensuite, il faut qu'au cours de l'étude, on puisse maintenir cette comparabilité au cours de cette étude-là. Et après, il y a on vous a un petit peu informé sur la législation et le cadrage juridique des tests cliniques. En France, c'est extrêmement sévère et cadré. On ne peut pas faire n'importe quoi, n'importe où. Et le dossier, il peut bien entendu être porté soit par un industriel, soit par un laboratoire institutionnel, un hôpital, etc. Peut porter ce dossier de demande d'AMM. On vous a parlé, bien entendu, ces laboratoires institutionnels, ce sont les CIC, les centres d'investigation clinique. Nous en avons un à Poitiers qui travaille très bien, qui est reconnu, qui a un certain nombre d'essais qui sont en cours actuellement. Et ensuite, il y a les modalités. Alors, on parle de modalités d'enregistrement avec les critères d'octroi. Donc ça, c'est la partie que vient de nous décrire Madame Marie-Christine Perrot-Pochat. Il s'agit, en fait, vous nous avez un petit peu informé sur, en fait, les trois grands critères sur lesquels se basent les évaluateurs pour accepter qu'un médicament puisse être mis sur le marché. Il s'agit de la qualité, de l'efficacité et de la sécurité. Je ne reviens pas sur ces trois points-là. La qualité, c'est bien entendu d'où vient la matière première, est-ce qu'elle est pure, quelles sont les impuretés qu'on retrouve à la fin de la synthèse du médicament, la stérilité, la sécurité virale, etc. Et en fait, vous nous avez parlé d'un dossier. On aurait pu, par exemple, parler de ce qu'on appelle le CTD, qui est le Common Technical Dossier, qui est en fait un dossier, en fait, dans les dossiers qu'on dépose à l'AMM, on a une partie qui est commune de manière internationale.
C'est-à-dire que lorsqu'on travaille de manière décentralisée, c'est plus facile puisqu'on a toute une partie qui peut être déposée dans tous les pays en même temps, même en Amérique du Nord, il me semble, hein, avec le Canada et les États-Unis. Ensuite, on n'a pas parlé du marquage CE. Et oui. Alors, le marquage CE, c'est très important. C'est un dispositif médical, mais oui, c'est vrai, c'est un dispositif médical. Je passe. Donc, la durée de l'AMM, c'est bien entendu 5 ans. Pendant 5 ans, la pharmacovigilance fait son boulot, c'est-à-dire qu'elle suit les patients, ou en tout cas les malades à qui on a administré le produit. Et cette pharmacovigilance consiste à noter tous les nouveaux effets secondaires, l'intensité des effets secondaires sur les populations qui prennent ça, et les effets qui peuvent ne pas être vus au cours de l'étude et qui se sont avérés au cours de la commercialisation du produit. Et donc, tous les 5 ans, on fait une réévaluation. Alors, la réévaluation, c'est juste on reprend un petit peu les rapports de pharmacovigilance. C'est une commission qui est un petit peu plus costaud, vous voyez, d'accord. Et on décide ou non de reconduire l'autorisation de mise sur le marché. Et très souvent, vous avez dit que la France était championne du monde. Alors parfois, c'était sur des bonnes choses, parfois c'était sur des mauvaises choses. Mais on était champion du monde partout. Voilà. Par exemple, sur les temps qu'il faut, quand vous déposez un dossier à la NSM, les temps de réponse sont parfois un petit peu longs, etc. Là, on est champion du monde. Mais sur la régulation, ou en tous les cas, le cadrage juridique d'un certain nombre de choses, on est aussi champion du monde, et ce qui est bien, et qui normalement devrait contribuer à rassurer les patients qui prennent le médicament. Donc, et puis, voilà. Et maintenant, ce que je vais vous proposer, c'est d'échanger avec la salle. Vous pouvez poser votre question en vous adressant à l'une ou l'autre des conférencières, puisque je suis entouré d'adorables.
Toujours Marie Legrand, je commence. Poitou-Charentes Nature. Première remarque qui s'adresse à tout le monde, hein, à vous quatre à la tribune. Moi, j'ai vraiment le sentiment que dans nos sociétés industrialisées, dites évoluées, on fonctionne en occultant complètement le principe de précaution. C'est-à-dire on laisse les gens devenir de plus en plus malades du fait de l'environnement, du sol, de l'air, de l'eau, des aliments consommés. Et puis, on est très performant de plus en plus pour trouver des solutions, c'est-à-dire réparer les bêtises commises au départ. Plutôt qu'avoir une attitude d'anticipation, de précaution, avant d'entamer la phase de réparation que vous nous avez parfaitement décrite. Alors, c'est vrai que c'est encourageant de vous écouter, parce qu'on se dit, c'est rigoureux, c'est performant, il y a des résultats, mais on oublie tout le pan caché d'une société qui est en train de se pourrir tranquillement, quoi. Et ma deuxième remarque, de quel droit est-ce que l'être humain se donne-t-il cette position anthropocentrée dans le monde ? C'est-à-dire, primo, on prélève tout ce qu'on veut librement en termes de faune et de flore, surtout pour s'alimenter ou s'en servir. Mais en plus, pour les essais médicaux, on utilise des animaux dans des conditions que j'aimerais bien connaître. Parce que bien sûr, on utilise des mammifères, on n'utilise pas des insectes. Bon, mais dans quelles conditions ? Est-ce qu'il y a maltraitance ou pas ? Enfin, je veux dire, tout ça, ça me choque beaucoup.
Alors, chacune de nos conférencières va vous répondre. Simplement, moi, je souhaiterais juste intervenir par rapport à un terme que tu as utilisé, qui est le principe de précaution. Alors, en fait, le principe de précaution dont tu parles, c'est plutôt la prévention des maladies. Hein, c'est-à-dire quel est l'impact de notre mode de vie aujourd'hui, industriel, sur les maladies. Mais le principe de précaution en termes de pharmacologie ou en termes de santé, il est pris et beaucoup plus que... Je crois qu'on est champion du monde en termes de principe de précaution. Non, d'accord. Donc je laisse les personnes répondre.
Le principe de précaution par rapport là aux médicaments et aux AMM, mais même de manière générale. Vous savez qu'il y a eu des scandales sanitaires. Mais avant même qu'il y ait la loi Bertrand, nous avions déjà depuis une dizaine d'années commencé, si vous voulez, à anticiper. Ce que je ne vous ai peut-être pas bien expliqué, c'est qu'actuellement, pour un médicament, c'est le principe justement de précaution qui est utilisé, c'est-à-dire que quand un médicament va être mis sur le marché, avant, on essaie d'anticiper, si vous voulez, tout. Les aspects négatifs qui peuvent être utilisés, enfin qui peuvent apparaître par rapport à son utilisation. Il n'y a aucune attaque de ma part. Non, mais madame, je ne le prends pas comme ça, vous savez. Alors, non, justement, pour les médicaments, on n'est pas excellent pour réparer. Je vous ai montré quand même certaines photos qui montrent que on n'a pas pu réparer. Malheureusement, ces enfants qui sont focolèmes, on n'a pas pu réparer. Mais justement, notre démarche, ça a été d'anticiper et de se dire comment éviter que ça se reproduise. Et dorénavant, c'est systématique, si vous voulez. Je ne parle pas de notre environnement, je parle uniquement de ce que je connais un tout petit peu, c'est le médicament. Et je dois vous avouer que nous cherchons, par tous les moyens, à réduire le risque, à mettre des médicaments sur le marché qui soient de bonne qualité, qui soient efficaces, qui traitent réellement, et ne plus avoir de poudre de perlimpinpin comme on a pu avoir donc il y a quelques années. Je vous assure qu'on fait vraiment des efforts pour vous donner des médicaments qui sont efficaces et les plus sûrs possibles. Et quand on parle de pharmacovigilance, il y a eu aussi quelque chose de très nouveau qui est apparu dans le texte de loi, c'est qu'on n'est plus là uniquement pour faire du décompte de cas d'effets indésirables, mais on fait aussi des études d'efficacité qui sont des études d'efficacité de grande envergure qui entrent maintenant dans cette phase 4 où on voit ce qui se passe réellement au niveau de l'efficacité du médicament. Parce qu'actuellement, on ne parle que du risque. Je sais que je suis une professionnelle du risque, mais je n'oublie jamais qu'un médicament, c'est efficace et ça sauve des vies.
Non, mais la question était en fait un petit peu à mon...
Je vais glisser vers une autre notion qui, je pense, se rapproche plus de votre préoccupation, qui est la prévention. La prévention, parce qu'on a à disposition dans certaines pathologies des médicaments aussi utilisés donc à visée préventive. Et si vous regardez une pathologie comme l'infarctus du myocarde, il y a une énorme étude incluant des données de plus de 30 pays qui a recensé les facteurs de risque, qui a fait des modèles mathématiques, qui a montré que 90% des infarctus peut être prédit quand on compile 7 facteurs de risque. Ces facteurs de risque, il y en a, ils sont modifiables de façon assez simple, peut-être pas à l'échelon d'individu, mais c'est par exemple arrêter de fumer. Il y en a, ils sont modifiables parce qu'on a des médicaments efficaces, les antihypertenseurs, les hypocholestérolémiants pour lutter contre le cholestérol, mais c'est aussi manger mieux, fruits et légumes. C'est aussi ne pas être sédentaire. Et donc, on a ici une pathologie où on est capable de quantifier le risque à 10 ans, parce qu'il y a des modèles mathématiques, et où on a à disposition des médicaments efficaces, relativement bien tolérés. Et pourtant, nos résultats sont très, très mauvais. On a des efforts colossaux à faire en termes de prévention cardiovasculaire, même si la France est dans une situation d'excellence par rapport à ses voisins. Donc, on est ici dans un domaine où vous avez pourtant, on ne peut pas dire qu'il n'y ait pas eu de préoccupation par rapport à cette pathologie. La connaissance épidémiologique est très bonne, l'efficacité, enfin la recherche de médicaments, elle est très avancée aussi. Et pourtant, qu'est-ce qui pêche? C'est la mise en place de cette prévention, c'est aussi l'attitude des gens. Parce qu'effectivement, si les gens, y avait des campagnes peut-être plus massives visant le tabagisme, l'alcoolisme... Ce serait, on modifierait donc nos chiffres épidémiologiques. L'espérance de vie, qui est déjà très bonne en France, grimperait de plusieurs années. Voilà.
Vous pouvez répondre sur la question des tests sur animaux?
Oui, moi je crois que les plantes et tout ça, on les prélève. Il y a des règles. Hein. On ne va pas cueillir ces petites plantes n'importe où. Hein. C'est... Je pense que les animaux, il y a de moins en moins. Enfin, il y a des tests qui se sont beaucoup améliorés. Et maintenant, à cause des biotechnologies et de l'évolution de la biologie, il y a moins de tests sur les animaux. Hein.
Alors, il y a encore des tests. Mais alors, je dois vous dire que nous avons un comité de protection des personnes, nous avons un comité de protection des animaux qui se réunit régulièrement, qui est composé de vétérinaires. Et on aborde aussi les problèmes éthiques. Maintenant, pour avoir le droit de faire de l'expérimentation animal, sachez que nous devons passer un examen, une certification et que nous devons nous remettre à niveau régulièrement. Alors, il y a des bonnes pratiques.
Il y a les bonnes pratiques de laboratoire pour les animaux.
Oui. Chaque étude est déclarée.
Exactement.
Acceptée par cette commission.
Oui, oui. C'est extrêmement encadré. Et alors,
même pour les TP, hein.
Oui, je peux juste vous dire que pour ce qui est, je peux vous faire passer, si ça vous intéresse, un topo que nous avons eu l'année dernière, justement sur l'expérimentation animale et sa réglementation en France. Vous mettez un petit mail, je vous le ferai passer sans problème. Et là, en avril de l'année prochaine, nous allons avoir une mise à niveau, si vous voulez, pour l'ensemble des chercheurs au niveau recherche animale dans la région qu'on va proposer. Si vous voulez, ça sera 2 heures sur justement ce que l'on doit faire et comment on doit se mettre à niveau. Mais sachez que c'est très encadré, c'est tout aussi encadré que l'expérimentation humaine. Vraiment.
D'autres questions ?
Oui, j'ai une question. Moi, je ne suis pas du tout du domaine. Je suis un simple citoyen, mais accessoirement, je suis physicien. Et la question que je me pose, c'est quelle est la part de la simulation numérique dans la conception des médicaments ? Parce que maintenant, on a des outils numériques qui permettent de concevoir des molécules pour des effets donnés, et je voudrais savoir quelle est la part de cette recherche.
La part exacte, je n'en sais rien, mais il y a quand même des médicaments qui ont été conçus par modélisation moléculaire, hein, qui ont été conçus par rapport à, dans l'espace, par rapport au récepteur, au site. Donc, y a des, par exemple, Tamiflu, c'est un médicament, Tamiflu qui est utilisé dans le traitement de la grippe, c'est un produit qui a une origine naturel, mais qui a été conçu exactement par modélisation moléculaire pour avoir le meilleur produit qui interagit aux meilleurs endroits. Et il y en a maintenant, quand même, c'est quelque chose qui est très utilisé. Alors le pourcentage, je ne sais pas. Donc connaissant le site actif, connaissant sa position, parce que je ne l'ai pas mis là, mais j'avais une structure en 3D, on voit pour que, étant donné que les sites actifs sont désacinaminés, pour que la molécule puisse rentrer dedans et pour qu'elle soit bien localisée, il faut par exemple qu'un cycle aromatique ne soit pas substitué. Il faut qu'il n'y ait pas plus, parce qu'autrement, ça empêche de rentrer dans les interactions avec les acinaminés.
En fait, aujourd'hui, dans les grands dans les laboratoires de recherche qui ont les moyens de le faire, travaille sur la modélisation. On a des outils aujourd'hui pour modéliser ce qu'on appelle ces cibles thérapeutiques, hein, ces protéines. On peut modéliser en 3D une protéine, voir quels acides aminés pourraient être impliqués dans cette réaction ligande-récepteur, hein, entre le médicament et puis cette protéine. Ça se fait par calcul ab initio, voilà. Et je pense que l'un des plus grands centres en France est à Toulouse actuellement. Et je crois que c'est un centre qui est cofinancé Sanofi, il me semble.
Oui, je pensais par exemple, le prix Nobel de chimie a été donné à des gens qui font des molécules à partir de calculs ab initio. Et je me demandais s'il y avait un chimiste peut-être qui pourrait répondre.
Oui, oui.
Effectivement, dans le stade du développement d'une molécule, la modélisation in silico fait partie des outils. À partir du moment où vous voulez modifier une partie, on est obligé de passer par là. Et après, dans d'autres stades, dans les relations avec les cibles, effectivement, pour cibler une nouvelle développer une nouvelle molécule, on a tout intérêt à connaître les interactions avec la cible. Il y a des interactions stériques, et ça, c'est une première réponse qui peut être faite sur l'ordinateur. Effectivement, c'est un outil qui est utilisé en routine.
D'autres questions ?
Je voulais préciser que, en ce qui concerne les débats des commissions à l'Agence du médicament, ceci était consultable et depuis relativement récemment, certains débats sont filmés. Il y a mise en place par le ministère de la Santé depuis septembre 2013, une base de données sur les médicaments où vous aurez une mine de renseignements sur tous les médicaments, c'est exhaustif. De plus en plus de transparence, je pense, et tout ça favorise l'intervention de l'usager, du citoyen, et on est dans un forum citoyen, et je pense qu'il ne faut pas hésiter à s'informer sur ces sites-là, du ministère de la Santé et de l'Agence du médicament notamment. On n'a parlé que du médicament à usage humain, mais en volume, c'est beaucoup plus important, c'est le médicament à usage vétérinaire, mais ça fera peut-être l'objet d'échanges, notamment si on parle d'antibiorésistance. Alors, je voulais m'adresser à Mme Rago pour lui... J'ai eu en tête, lorsque vous avez parlé des essais sur les animaux et cette toxicologie sur les animaux, j'ai eu en tête une histoire qui est arrivée à des gens qui ont vu un lapin manger des champignons, et ils se sont dit, c'est bon pour le lapin, c'est bon pour nous. Et ils se sont tous retrouvés au CHU parce qu'en fait, ils avaient ingéré des amanites qui ne sont pas toxiques pour le lapin et qui sont toxiques pour les humains. Donc, je voulais savoir comment en pratique, éliminiez-vous ce genre de biais ?
Oui, alors, moi, je suis absolument pas spécialiste du développement préclinique parce que je suis complètement sur le développement clinique. Donc, j'ai autour de moi des gens sans doute plus compétents, mais... Puisque vous me posez la question, je donne des éléments de réponse. Voilà, c'est jamais une seule espèce. Pour les différentes parties de ce développement préclinique, sont exigées au moins deux espèces. Dans certains cas, l'une doit être un rongeur, pas l'autre. Et on va, en termes de pharmacodynamie, avoir en fait la notion de certains modèles animaux plus intéressants que d'autres. Dans le cardiovasculaire, c'est vrai que c'est le chien qui est le plus intéressant. C'est très compliqué. Mais on a aussi la connaissance, en fait, en termes d'extrapolation. On sait qu'avec certains animaux, on pourra faire une extrapolation plus franche. Mais de toute façon, c'est un risque, puisque tout simplement, si on pense à la métabolisation, vous pouvez très bien avoir des métabolites produits chez l'homme qui n'ont rien à voir avec ce produit chez l'animal. Voilà. Et il y a certains produits, je pense à A1, qui étaient très très prometteurs chez l'animal. Ils sont passés chez l'homme, métabolites totalement inactifs. Alors, vous me parlez de toxicité, je vous réponds efficacité, mais donc métabolites totalement inactifs. Et ce produit a bien sûr été arrêté, n'avait aucun intérêt. Donc il y a toujours un risque, effectivement. Mais par contre, s'il y a une toxicité qui s'exprime chez l'animal, à ma connaissance, on ne va pas plus loin si... Je ne sais pas si Marie-Christine a des notions.
C'est exceptionnel qu'on poursuive le développement. Voilà. C'est exceptionnel qu'on poursuive maintenant le développement. Par contre, sachez que l'aspirine, aujourd'hui, ne serait pas sur le marché.
Oui.
Voilà. Si on reprend les modèles de toxicité. Voilà.
De toxicologie vénéré à la fac nous le disait il y a déjà 20 ans. Voilà. L'aspirine n'aurait jamais la MM aujourd'hui. Alors aujourd'hui, encore moins qu'il y a 20 ans.
Madame Perropocha, vous avez parlé mais rapidement de raccourcis journalistiques. Je crois que c'est important d'en discuter, mais on discutera peut-être lors du forum. Je ne suis pas sûre que les journalistes qui parlent des médicaments, d'abord, soient des journalistes scientifiques. Donc ça, c'est un grave problème. Ensuite, ce qui se passe aussi, c'est que les médias happent comme ça des sujets qui sont en effet très médiatisés. Et que lorsque ça passe à la télé ou dans les journaux, on n'a qu'un avis. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'avis de toutes les instances. On a l'avis du laboratoire. Alors déjà, comme le grand public commence à se méfier des laboratoires à cause justement des discours des médias, on n'a pas l'avis. On n'a pas l'avis du médecin. On n'a pas l'avis des instances dont vous parlez. Le grand public ne connaît pas ces instances, ne savent pas qu'elles existent. Même tout le monde ne va pas voir systématiquement sur des sites, comme dit M. Chevalier. Donc ce qu'il faut, c'est aller vers les gens et faire des campagnes. M. Chevalier, on a parlé, il y a une campagne ici, justement, nous a donné des prospectus ce matin, mais c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue, quoi. Donc il faut trouver des solutions pour que, justement, il faut arrêter qu'il y ait ces suspicions du public, mais aussi cette médiatisation qui est très, très négative vis-à-vis du médicament. Donc qui peut, justement, porter les gens qui sont contre la vaccination, etc., à avoir de beaux jours.
Mais dans l'autre sens aussi, je peux dire qu'il y a des fois, il y a une information, on a trouvé un médicament qui va révolutionner le médicament idéal. Alors que... Oui, et c'est qu'une ébauche, et ce médicament, peut-être qu'il sortira, enfin cette molécule ne sortira jamais, ou alors 10 ans après. Bon, là, on a l'impression à chaque fois qu'il y a une découverte de quelque chose, qu'on a trouvé le médicament idéal. Ça n'existe pas.
Alors, cela dit, la presse est quand même importante. Allez-y. Oui.
Alors, j'aimerais bien répondre. Vous avez cité tout à l'heure Diane. Si mes informations sont bonnes, elle a été retirée en France, mais pas dans les autres pays européens. Très important.
Et à ma gauche, on a entendu le principe de précaution qui est contre-productif, et je pourrais citer beaucoup d'exemples, et qui est un obstacle à tout progrès pour demain. Bon. Alors, pour l'information médicale, médiée par les médecins, il y a eu l'histoire des pilules de deuxième et troisième génération. J'ai été stupéfait par l'information, parce que moi je suis un prescripteur de médicaments dangereux, au sens où vous l'entendez, très dangereux. La pilule, mon Dieu, un accident thromboembolique sur 40 000 cas, mon Dieu, c'est pas si grave que ça. Moi, j'ai des, je ne veux pas citer d'exemple, mais on serait terrorisé en disant, attendez, si le jour on va le faire le même procès qu'on fait à la pilule, je vais me retrouver les dernières années de ma vie en prison, il n'y a pas photo. Alors l'information qui a été donnée, elle a été totalement mal comprise, inexacte, et les gens, les spécialistes, etc., qui ont pu s'exprimer, ils ont eu un entrefilet haut comme ça, ils n'ont pas été audibles, ils n'ont pas été écoutés du tout. Et la réaction était comme... Ils ne se sont même pas exprimés tellement, il y avait un bruit médiatique tellement fort, et qu'ils n'avaient rien à dire parce que personne ne les écouterait. La morale de tout ça, c'est que la pilule, c'est un progrès mais considérable, et que quand on a voulu créer une nouvelle génération, c'est pour faire un progrès. Mon Dieu, il n'y a pas eu de progrès. Mais ça veut dire que si... Non, mais on a considéré... Attends, je simplifie à l'outrance... On a considéré que passer de la deuxième à la troisième, c'est ce qu'on a dit. Il n'y avait pas un réel progrès, d'ailleurs, on ne les a pas remboursés. Et donc, ce n'est pas une vraie réussite en termes de progrès scientifique, mais ce n'est quand même pas une reculade. Donc, c'est pour dire qu'on ne fera plus jamais de progrès pour les pilules, si on raisonne comme ça. Il y a un autre exemple, c'est le Diantalvic, qui a été supprimé. Là, c'est l'européanisation. Donc, il y a les effets négatifs du principe de précaution, parce que des gens dans des pays du Nord se suicidaient avec. Je vous assure... Remplacer le Diantalvic par le paracétamol, qui est un produit extrêmement vendu, chez nous, on se suicide avec le paracétamol. Est-ce qu'il faut supprimer le paracétamol ? Là, le principe de précaution, ça aboutit à ce qu'on utilise pour les douleurs simples, aujourd'hui, des produits bien plus dangereux. Voilà. Et donc, c'est un message très fort, il faut le dire à la population, mais il faut être... Là, on a une toute petite audience, je peux m'exprimer, mais à la télévision, je peux vous assurer l'histoire de la pilule, c'est confondant, on a pratiquement personne s'exprimer ou il n'a pas été entendu. Et vous, après, vous faites le procès. Mais personne ne voulait vous entendre. Personne ne voulait vous entendre. Et j'ai d'autres exemples. Effectivement, parce que c'est un peu plus compliqué que le message, tout est noir. Alors, j'aime bien raconter à mes malades, quand j'entends ce genre d'histoire, pour la rétocolite, dont je m'occupe beaucoup, avant les années 60, la mortalité des formes graves, c'était 30%. Un malade sur trois mourait. Aujourd'hui, effectivement, de temps en temps, on a, par exemple, un lymphome sur 1000 cas. Ils n'en meurent pas tous, vous comprenez bien, il faut mettre en parallèle des choses, hiérarchiser les événements. Si on donne des médicaments, qui la plupart d'entre eux sont des grands progrès, c'est qu'on en attend un bénéfice. Et il y a quelques risques. Vous prenez votre voiture, il y a des risques, et vous parlez d'écologie. Attendez, la voiture, mon Dieu, l'industrie, le chauffage, tout ça, vous voyez, il faut, si vous raisonnez, appliquez le même raisonnement qu'aux médicaments, vous allez voir, ça va être dur. Oui, mais peut-être que vous êtes mal exprimé alors, parce que je crois que vous... j'ai cru que j'ai compris la même chose que les autres. On va voter.
Non, mais Marie.
On a le droit de réponse, okay. Parce que. Okay. On n'a pas compris ce que.
Non, mais je peux juste. Tu peux conclure si
non, mais je
tu veux intervenir.
Je voulais dire quelque chose parce que, monsieur Beau, ce que je voulais dire justement, c'est que c'est dommage que les gens n'aient pas été médiatisés et que sont médiatisés ceux qui sont médiatisables. C'est tout. C'est comme ça que ça se passe aujourd'hui.
Je vais faire un petit commentaire.
Non.
Oui, vas-y.
Et après, on donnera
je
voudrais quand même répondre parce que je suis très gênée. Du fait que mon intervention, non pas sur le bien-être animal, hein, bon, mais la première, n'a pas été comprise d'une part à la tribune et par mon voisin de droite. Je n'ai à aucun moment, en parlant de principe de précaution, attaqué tout le système qui vient d'être décrit sur la mise en place et des médicaments. Ça n'a rien à voir. Ça n'a strictement rien à voir. Donc, je vais essayer de m'expliquer clairement. Pour moi, le principe de précaution consiste à vivre sur une planète, donc je parle en France, là, puisqu'on est un colloque à Poitiers, qui soit le mieux, comment dire, protégé de toutes les pollutions pour ses habitants. Donc, je cite, par exemple, le gaz diesel des automobiles dans l'air des villes. Bon, l'air.
L'air intérieur, qui est beaucoup plus dangereux que l'air extérieur, formaldéhyde, benzène et une centaine d'autres molécules. Bon, bien sûr, l'enjeu de la circulation automobile. Mais je parle des polluants qui ont été introduits par l'homme, plus l'alimentation industrielle, les emballages, l'état des sols, etc. Ce qui fait que récemment, il y avait un colloque sur les maladies respiratoires et allergiques qui ont explosé depuis 20 ans. C'est pas une invention, c'est une réalité. Donc je dis, protégeons d'abord l'environnement pour qu'il y ait moins de maladies et ensuite réparons comme vous le faites.
Absolument Marie, simplement qu'en fait ton intervention était un pied dehors et un pied dans le sujet. Si, si, en fait nous on parlait essentiellement, l'objectif c'était juste de dire qu'il y a... Comment on arrive à sortir un médicament? Il y a des pathologies. Ces pathologies, pour les soigner, il y a des médicaments. Comment on développe un médicament? Dans quel cadre? Et quelles sont les attentes des malades par rapport à ce médicament? Bien entendu, toi, ce que tu dis, c'est mais est-ce qu'on ne peut pas prévenir les maladies en faisant plus attention à notre environnement? C'est ça? Non, mais... On est d'accord, mais ça, on est d'accord. Sauf que c'est pas le sujet aujourd'hui. Non, c'est pas tabou. C'est pas tabou. C'est pas tabou, Marie. Mais bien entendu, je suis entièrement d'accord avec toi. Nous avons ce que tu as appelé le principe de précaution. Il y a l'Espace Mendès France a organisé l'année dernière les journées sur les OGM. On a organisé des choses sur la pollution, notamment la pollution de l'eau, etc. Sur l'expérimentation animale, etc. Donc tout ça, ce sont bien entendu des moments qui se complémentarisent. Aujourd'hui, en fait, on parlait essentiellement du médicament. Ça n'est pas tabou, bien au contraire, Marine, il ne faut pas dire ça.
Un petit commentaire sur ce que disait Philippe Beau à propos de ces médicaments dangereux qui allaient le conduire en prison. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que si ces médicaments sont dangereux, c'est qu'aussi ils sont extrêmement efficaces. Et les patients, vous savez... Enfin, on en parlera cet après-midi de ce type de médicament. Mais les patients qui, maintenant, ont la possibilité de recevoir ces médicaments, je pense qu'eux te bénissent tous les jours. Voilà. Donc, il faut aussi moduler un petit peu ces...
Non, non, absolument. Voilà. Bon, juste, je rappelle. Hein, je rappelle juste le sujet. Jean-Claude, tu auras tout le temps cet après-midi, puisque c'est toi qui présideras.
Et je voudrais terminer...
Tu auras tout le temps cet après-midi de parler et de dire ce que tu veux. Donc laisse la parole aux autres, s'il te plaît.
Non, mais je rigole.
Non, non. Je vais terminer
sur une petite note locale, puisque ce débat est régional, en tout cas, et c'est pour Stéphanie Rago qui nous a expliqué que, finalement, les essais cliniques se faisaient à Poitiers, au CIC, donc il y avait une représentation. Ce que n'a pas dit Stéphanie Rago, c'est qu'on pouvait apprendre à Poitiers comment faire des essais cliniques, et il y a à Poitiers un master qui est, tu n'as pas osé le dire, dirigé par Stéphanie, qui s'appelle Essais cliniques et développement du médicament et qui regroupe des scientifiques, des pharmaciens, des médecins et qui est très, très apprécié. Voilà.
Merci. Parfait.
Monsieur Chevalier. Je ne sais pas, mais oui, je voulais appuyer sur le fait qu'on est dans un forum citoyen. Donc, on doit donner aux citoyens, aux usagers du système de santé, un maximum d'outils pour s'approprier ce domaine. Et je pense particulièrement à la pharmacovigilance. Madame Perrault-Pochat, qui est responsable du centre régional de pharmacovigilance de Poitou-Charentes, et c'est vers son service que vont toutes les déclarations des professionnels de santé et depuis tout récemment des usagers et des associations d'usagers qui peuvent déclarer directement. Ce que je voulais dire, c'est que plus ces déclarations d'événements indésirables seront rapidement faites et plus elles seront nombreuses, et moins il y aura de dégâts par la suite pour les utilisateurs de ces médicaments. Et on peut dire que tous les jours, si vous prenez un abonnement aux alertes de l'Agence du médicament, tout le monde peut le faire, vous avez tous les jours des alertes, des retraits de l'eau et parfois des retraits d'AMM qui sont consécutifs justement développement. Et donc, je pense à Diane. Diane, si j'ai bonne mémoire, il y a eu une modification dans les indications et dans les prescripteurs habilités à prescrire. À la suite de ces événements, il y a eu des dispositions. Diane est de nouveau sur le marché, mais avec des restrictions de prescription, si j'ai bonne mémoire. Hein, là, vous...
Très bien. Deux dernières questions et on arrête. Hein. Deux dernières questions.
Jean-François Vergniaud, citoyen participant à cette rencontre. Moi, je ne peux qu'encourager M. Bexir à continuer, là, en tant que représentant de la communauté d'agglo, à soutenir l'espace Mendès France pour organiser justement ces temps d'échange, puisque nous nous rendons compte qu'il peut y avoir des malentendus, qu'on peut être sur un petit peu des positionnements les uns ou les autres différents, mais à un moment donné, continuons l'échange. Nous avons besoin de beaucoup de transversalité et de complémentarité. Les médicaments, effectivement, sont une chose. J'étais très intéressé et je vais revenir cet après-midi. Mais tout ça se place dans un environnement. Il y a ce qui se passe avant et il y a ce qui se passe maintenant. C'est aussi, je soutiens d'une certaine manière la demande ou la position de Marie Legrand qui ouvre justement des échanges pour demain et les jours à venir. Merci.
Alors, je suis entièrement d'accord avec vous. Moi, je pense qu'il va falloir faire quelque chose pour Marie. On organisera quelque chose qui est juste avant cette chaîne-là. C'est-à-dire aujourd'hui, notre position dans l'environnement, quel environnement induit quelle pathologie, voilà, et qu'est-ce qu'on pourrait éviter et qu'est-ce qu'on pourrait éviter de faire, voilà. Donc c'est plutôt de l'écologie, de l'environnementologie, enfin je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais il n'y a pas de souci. Juste à propos de ce que vous venez de dire, monsieur, moi je suis ici au titre de mon activité privée, je l'avais dit, hein, tout à fait au début. Donc voilà, en tant que PDG de Biocidex, mais pas en tant que, comme il est écrit là, vice-président du Grand Poitiers. Mais je veux bien vous assurer de mon engagement auprès de l'espace Mendès France. Tout le monde le sait ici. Merci. Voilà.
Oui, j'ai une question de citoyen. Les labos pharmaceutiques, ils fournissent des données statistiques. Ces données statistiques, elles sont remoulues par les services publics ou pas ?
Très sincèrement, des fois, nous les remoulinons, d'autres fois, non. Mais quand nous les remoulinons, nous demandons à avoir les données sources, c'est-à-dire que le laboratoire pharmaceutique doit toujours nous donner ses résultats bruts pour que l'on puisse refaire les études. Alors, ça prend beaucoup de temps, mais il nous arrive pour certains produits de refaire l'analyse statistique.
Et vous êtes sûr d'avoir des résultats bruts ?
Écoutez, avec tous les contrôles que l'on diligente, j'espère que oui, j'espère que oui. Je suis de nature sceptique, mais quand même, il arrive un moment où il faut quand même, on est obligé d'accorder un minimum de confiance aux personnes avec lesquelles on travaille, sinon on rejette tout en bloc. Et je vous assure,
je
vraiment,
je ne suis pas du tout sur le créneau de la précaution, pas du tout. Simplement,
ce que je veux dire, c'est objectif, que c'est vrai, on dépeint souvent l'industriel comme un vilain gribou. Je suis pas d'accord. À force de travailler avec eux, je me rends compte que on a quand même beaucoup progressé par rapport à la qualité des données qui nous sont fournies. Vu mon âge, j'ai commencé les visas des médicaments, on ne parlait pas d'AMM mais de visas, on avait 7 sujets actuellement dans un dossier d'AMM, on a plusieurs études sur 3 000-4 000 patients, c'est un énorme travail, mais nous pouvons avoir les données brutes et refaire les calculs statistiques. D'ailleurs, des fois, nous ne sommes pas d'accord. Et Madame Rago est bien placée pour dire que tout dépend de l'hypothèse de travail que l'on va choisir. Et après, on peut faire dire aux chiffres ce que l'on veut. Vous êtes physicien, donc vous le savez très bien. Bon.
Quand même, on ne fait pas de l'économie quand même.
Vous avez aussi un renforcement de la politique d'inspection de l'ANSM. Et comme nous, on l'a été il y a 3 semaines, il y a des inspections, hein, que ce soit au niveau de l'industrie pharmaceutique ou dans des institutions publiques. Ces inspections, nous, ça a été deux personnes présentes du lundi matin au vendredi soir qui ont demandé les codes d'accès en fait à ce qu'on appelle le cahier d'observation électronique, qui ont tout vérifié, les moindres détails, etc., en termes de données, hein, même si les données de cette étude n'étaient pas encore analysées. Et donc aujourd'hui, de la fraude, puisque c'est un petit peu ce que vous évoquez, de la fraude, non ? Enfin, qualité des... On peut se dire, est-ce qu'on...
Un poussé de coude, quoi.
Alors, là aujourd'hui, enfin, qui pourrait se permettre, voilà, de trafiquer des données ou après, vous avez aussi l'intervention du statisticien. Alors, c'est vrai que la statistique, et je fais partie des statisticiens, la statistique, ça peut être qu'une cuisine innommable, mais il y a quand même, au niveau des bonnes pratiques cliniques, en fait, une mesure qui dit que dans un protocole, donc, qui décrit l'intégralité de la recherche, on doit aussi décrire toutes les analyses statistiques qui vont être faites et on doit s'y tenir. Parce qu'effectivement, la statistique fait que si vous faites 100 tests différents, vous utilisez par exemple 100 critères différents, le hasard fait que parmi ces 100, vous en aurez 5 qui seront positifs et qui concluront en une efficacité du traitement. Donc effectivement, il peut y avoir une distorsion complète, hein, par simplement le biais de la statistique. Mais il y a des règles là aussi à respecter.
Bien. Juste, oui, voilà, il y a un point de documentation en haut. Je voudrais juste saluer l'arrivée du professeur Grassin, Madame Grassin, qui est responsable de la pharmacie, enfin de tout ce qui est pharmacie hospitalière au CHU de Poitiers, et vous faites partie des intervenants cet après-midi. À partir de 13h45. Voilà. Je vous remercie tous de votre participation et de votre présence et un de ces jours.
Moi, je vais m'adresser aussi à l'élu.
Oui, on n'était pas là pour ça. Hein.